I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey!
Bienvenue au Frenchcast! C'est bizarre hein, de changer en français?
Ouais, ouais, parce que à chaque fois qu'on se parle en anglais, là, boum! Mon petit cerveau de TDAH, il a pris deux secondes à.
T'as vu, moi, c'était vite.
Oui.
Ah, ça change vite maintenant. Exactement. Avant, j'avais des problèmes, mais maintenant, ça change vite.
Ouais?
Ouais. Mais je peux pas perdre l'accent. J'essaye, puis c'est impossible.
Mais pourquoi ça serait plate que tu perds ton accent?
Oh, peut-être c'est ça aussi, ça m'aide.
Ouais. Ah, non, c'est clair. Non, l'accent fait partie du charme.
Ah, ouais.
D'être ici, voyons donc.
Ben, j'ai pas le choix. Je suis trop vieux maintenant, ça se perd pas.
Et il faut que tout le monde soit différent, là, fait que t'as trouvé ta différence.
C'est juste l'accent.
C'est juste
C'est pas mes idées de con.
C'est enough. Oui, mais quand t'as un accent, ta marge d'erreur est plus grande, je pense.
C'est vrai. J'ai le droit de dire plein de choses. Puis peut-être il veut pas dire ça.
Oui, exact. Tandis que moi, quand je dis quelque chose, il va faire, ben tabarnak, as-tu vraiment dit ça? Il a dit ça.
Ouais, c'est ça, il me donne une marge, moi.
Ouais.
Yo, alors toi, t'es-tu fatigué maintenant parce que tu cours partout, t'es allé en Europe, t'arrêtes pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tu cours de quoi? T'as peur de qui? Qu'est-ce qui se passe?
Du monstre en dessous de mon lit, mais ça, c'est un autre sujet, là. Mais non, ça a juste déboulé. Moi, j'étais en crise de cinquantaine. Ça, je le sais.
OK, c'est ça.
Ouais. Puis, tu sais, je vais pas être l'espèce de fucking char de luxe puis la blonde de 25 ans, là, tu sais, c'est...
Tu devrais. Ça serait drôle.
I've done that before. Ça, c'était ma crise de quarantaine. Cinquantaine, c'est plus sensé,
santé,
c'est
ouais.
plus... Ben, c'est plus... Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, un peu une quête spirituelle, tu sais, who the fuck am I, tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose... Puis, tu sais, c'est tout ce que j'ai vécu... Tu sais, de faire un Ironman aux îles Canaries, aller rouler en Utah, tu sais, voir des paysages extraordinaires. C'est comme si c'est comme si les éléments de la Terre te parlaient aussi, tu sais. Aller vivre un camp d'entraînement de baseball à 50 ans, man, avec des petits culs de 18 ans. That was amazing. C'était écœurant, man. Je veux dire, tu sais, c'est comme un rêve devenu réalité. Là, je fais le podcast avec Éric Gagné. Tu sais, j'improvise.
Ça, c'est bon.
Oui, puis j'ai décidé... Je suis comme parti sur un buzz de c'est drôle, j'avais fait un podcast avec ma fille, puis un de nos invités, dans le temps qu'on le faisait juste pour rire, un de nos invités, ça avait été Howie Mandel.
OK.
Puis on avait fait le podcast en anglais. Et Howie avait dit, moi, c'est rare que... Tu sais, je dis oui à tout. Façon de parler, là, tu sais. Ça m'est comme revenu. Fait que, tu sais, je me demandais, je me disais... Comme là, tu vois, je posais l'aller en France cet automne, c'était compliqué avec le producteur, puis c'était pas clair. Puis là, c'était comme... J'étais supposé être là au printemps, ben en juin, puis j'ai fait qu'est-ce que je fais. Puis là, j'ai dit... Je peux avoir un signe de vie. Deux heures après, Michel Grenier, le gérant de Mike, m'appelle, puis je l'avais invité à mon podcast. Fait que j'avais dit, il m'appelait, il me dit oui, telle date, telle heure, ça fait mon affaire. Puis il dit, hey, by the way, t'es-tu en Europe au mois de juin? Je dis pourquoi? Il dit, ben Mike voudrait aller faire sous écoute en Europe. J'ai fait, now I am. Tu sais, c'était l'élément déclencheur de voici mon prétexte pour aller en Europe. Mike fait sous écoute et vu que je sois là, parfait, man, je rencontre Blanche. Gardin, tu sais. Puis là, en plus, la semaine avant, j'avais rien. Ça fait longtemps que je voulais faire un marathon en Écosse sur l'île de Skye. Je voulais aller voir l'île de Skye. Écoute, man, si tu veux rencontrer tes vies antérieures,
ouais.
Tu t'en vas en Écosse sur l'île de Skye, tu sais. Fait que non.
C'est pas pour moi.
Je sais, je suis entouré d'athées, tabarnak.
Non, c'est pas ça. Moi, j'aime la beauté, j'aime les plages, le ciel bleu. Écosse, c'est trop gris pour moi.
Écoute, j'étais là une semaine, il y a plus 20 minutes. Remercions okay. Les changements okay. climatiques.
Okay.
L'Écosse, c'est les prochains Bahamas. Mais, tu sais, écoute, les paysages, je parle de paysages, je parle de plages. C'est pas les plages de Cuba puis les plages du Mexique, je veux dire, c'est pas ça, mais... c'est un paysage qui te parle, là. Tu sais, ça a été sculpté par les mains de Dieu quasiment, là. Je veux dire, tu sais, c'est les falaises. Tu regardes à l'horizon, tu vois les îles non habitées, tu sais, se dévoiler une fois que la brume s'est pété. Tu sais, non, j'ai vécu, je t'ai dit, j'ai l'air d'un gars un peu dans une secte, là, mais
ouais, hein?
Ouais, c'est un peu freak, mais c'est correct. Mais c'est ça, fait que c'est... Tu sais, comme là, cet été, j'improvise, il y a une paix qui s'installe dans ma tête aussi. Tu sais, je veux juste finir d'écrire le deuxième livre parce que je voulais faire deux choses en même temps, écrire le prochain show puis écrire le livre. Puis si j'écrivais un, je me sentais mal d'écrire l'autre. Fait que j'ai quatre. Yeah, fuck it, asti. Fini le livre, là, c'est ce qui presse anyway. Puis tu vois, cet été, Charlevoix, je vais aller voir du baseball, je vais aller faire une course en Gaspésie. Je veux pas dire urgence de vivre parce que, tu sais, ça a l'air de quelqu'un qui reste 6 mois à vivre, là.
Ouais, ouais.
Mais c'est un peu comme ça que je suis en train de vivre. Mais, je pense, peut-être qu'il me reste 6 mois à vivre. Êtes-vous courant de quelque chose? Non, regarde les images d'Écosse, man. C'est hallucinant.
Ça, c'est hallucinant.
Ben là, c'est un vieux château, mais...
Ouais. Oh, ça, c'est nice.
Ouais, mais on va trouver... Les falaises. Oh non, mais ça, c'est Glasgow. Glasgow, c'est de la merde. Edinburgh, man. Edinburgh, c'est hallucinant. À un moment donné, on va tomber sur les falaises. T'sais, déjà, ça commence. Ah non, écoute, c'est... On y va...
C'est pas...
On va falaises. There you go. T'en avais une coupe, de... Fais Isle of Skye.
Oh, ça, c'est nice.
Ouais, ben, c'est ça. Isle of Skye.
Isle of Skye, comme
ouais.
Île.
Ouais.
OK.
Fait que, tu sais, je pense qu'il y a aussi... Ah, bon, tu vois, regarde, j'étais exactement là. La falaise que tu vois en haut à droite. Puis moi, j'ai peur des hauteurs. Puis j'avais mon cul planté, les deux pieds dans le vide. Je disais, tu sais, le bout de gazon décidait que je faisais plus partie du décor. Je faisais plus partie du décor. Puis, tu vois, en bas, les moutons, c'est tellement beau parce que la plupart des routes sur l'île, c'est une voie. Puis, à chaque 200-300 mètres, il y a comme une patch d'asphalte rajoutée à gauche ou à droite en alternance. Fait que tout le monde roule à 20 km/h. Je veux dire, c'est pas des farces, c'est pas une joke. Il y a plus de moutons sur l'île que d'habitants.
Ouais.
Là, c'était au printemps, fait que c'était plein de mamans avec leurs petits. C'était comme, ah, man, oublie ça, tu sais. Ça a été le marathon, je l'ai couru, man, avec une pure joie, puis du monde super accueillant. Puis après ça, c'est ça, j'étais allé. Baigné dans l'océan, puis sur le bord de la falaise, c'était comme... Non,
c'est qui court dans ces marathons? C'est-tu des gens comme toi qui vivent des crises dans leur cinquantaine?
Non,
ou des jeunes,
c'est quoi? Non, ça va de tous les âges, puis c'est...
C'est-tu une compétition où le monde s'en fout? Il va juste le terminer, le compétition?
Il y a de tout, tu sais, je veux dire, honnêtement... Isle of Skye, c'était vraiment un petit marathon, tu sais, c'était vraiment cute, c'était le fun.
Alors, c'est juste pour rencontrer le monde, puis vous êtes en santé, ben, puis...
C'est la plus belle façon de découvrir un pays. Là.
T'as-tu fait des amis?
Moi, je parle beaucoup avec les gens, mais tu sais, faire des amis, tu sais, comme moi, là, hey, on reste en contact, on s'en parle à un moment donné, c'est de la bullshit, là.
Ouais. Quelqu'un en Écosse. Ouais.
Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que assis dans un bar, dans un restaurant, oui, tu jases avec le monde. Tu sais, moi, je trouve ça important. Il y avait le même petit café où j'allais déjeuner tous les matins avec une vue justement sur la baie de Portree. Portree, c'est la capitale de l'île, puis. Je veux savoir t'es qui, je veux savoir c'est quoi ton histoire. Moi, j'ai cette curiosité-là quand je voyage. Puis partout, là, je veux dire, je peux aller à Havre-Saint-Pierre puis m'asseoir avec du monde puis poser les mêmes questions, tu sais. Je veux dire, j'ai cette grande curiosité-là. Fait que, puis oui, en fait, c'est long parce que même souvent, dans mes événements, plus avant la pandémie, mais ça recommence, mais ma fille ou mon gars, ou même les deux vont dire, hey, on veut y aller avec toi parce que l'ambiance, c'est le fun. Moi, ce que j'aime de l'ambiance d'un triathlon, de marathon, c'est que je suis entouré de gens qui ont plus d'excuses.
Ton petit gars, es-tu actif physiquement? Il aime-tu les arts comme toi? Je sais que ta fille faisait une podcast avec toi, mais ton gars, fais-tu les affaires comme toi ou non?
Non, William, il est vraiment à part. Livia est très artistique. T'sais, on a eu la série Max et Livia pendant 3 ans, le podcast. Là, hier, justement, depuis un bout, on se fait des meetings business parce qu'on a des projets qui s'en viennent.
By the way, tu sais, la première fois que j'ai vu le clip de toi et ta fille faisait le podcast, moi, je savais pas que c'était ta fille, puis j'étais comme, tabarnak, pour sa blonde est jeune. Puis je me souviens pas, j'étais avec qui, puis quand ça arrive, il dit, non, mais elle est jeune parce que c'est sa fille. J'ai dit, OK. Parce que j'étais comme, tabarnak,
bon. Tu rassuré, non, non, OK.
Oui, j'étais comme, tabarnak, elle est jeune.
Elle avait 20 ans qu'on a fait le podcast, man. Give me a break, tabarnak.
Mais c'est pour ça que j'étais choqué. C'est comme, holy shit.
Non. Ça fait très longtemps qu'en bas de 30 ans, je me sens mal, tu sais. Mais
ouais, alors ton gars,
baseball, football, c'est un drôle de personnage parce que, écoute, il se lève à 5h du matin pour aller jouer au basketball avec ses chums, mais il veut pas jouer au basketball pour l'école. Là, moi pis sa mère, on est en train de
Ah, oh, ça c'est intéressant.
Ouais, mais il y a une espèce de tag team de, c'est ta passion. Il y a une chose que tu dois faire dans la vie, c'est suivre ta passion. C'est comme le football, moi je l'avais, mais le baseball, c'est venu naturellement. après ça, quand il rentre au secondaire, je dis, essaye le football, man. C'est un athlète de fou. T'sais, non, mais je pense qu'il y a moins 8% de gras. Écoute, mon gars, il a 14 ans, il a un six-pack. Il n'y a pas de gras.
Okay, ouais, ouais.
Il court, il est toujours le plus vite dans.
Wide receiver.
Exact. C'est exactement ce que j'ai dit. Et là, il dit, je vais attendre le secondaire 2. Pourquoi?
Non.
J'ai dit, une belle façon d'intégrer le secondaire, c'est de faire partie d'une équipe sportive, puis encore plus le football. T'es dans l'équipe de football, tu ne feras pas écœurer dans le corridor.
Ouais, ouais, exactement.
T'as 40 autres dudes de style qui vont te protéger, puis, tu sais, they got your back. Fait que, puis, il est tombé en amour. Mais là, le basket, là, je pense que là, ça rentre de genre. Tu sais, puis là, tu vois. Là, il y a une belle histoire derrière, à un moment donné. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, William est arrivé dans ma vie à 6 ans. Tu sais, fait que. Tu sais, moi, j'ai appris son existence quand il avait 5, ouais, 5 et demi, 5, 5 et demi, 6.
C'était comment ça? C'était par un appel? Elle est venue te voir, non. Sa mère?
En fait, sa mère puis moi, on faisait le party à l'époque de ma belle période. Puis elle m'avait dit qu'elle était enceinte, puis moi j'étais comme genre, man, tu sais, je veux dire, là je commençais à admettre que j'avais un problème de coke. Fait que tu sais, quand tu t'admets que t'as un problème de coke, t'es souvent le dernier au courant. Tu comprends-tu? Tout le monde le sait depuis longtemps, puis. Et elle a juste comme respecté la décision qu'il fallait que je reprenne ma vie en main, puis on s'est comme perdu de vue, puis je me suis posé des questions, tu sais, genre, ben, c'était-tu fait avorter, whatever, tu sais. Puis elle a pas assez proche, en fait. Et puis non, elle a décidé de garder William, puis de respecter ma décision. Puis elle aussi, William a changé sa vie, elle retourne à l'école, elle s'est reconstruite, elle s'est reprise en main. Puis moi, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a écrit. C'était comme genre le chum de la cousine... Puis elle a fait. Parce qu'elle gardait ma. Elle disait pas que c'était moi. Elle disait son père est connu, mais elle disait pas c'était qui. Puis là, quelqu'un a fait. Hey, c'est le kid de Maxime Martin, il y a la même face. Fait qu'il dit. Quelqu'un qui m'a écrit, il dit je me mêle pas de mes affaires. Mais.
Est-ce que tu connais.
Oui, exact. Puis j'ai fait waouh. Puis je me suis dit, je suis dans le parking du IGA à Baie-Saint-Paul. Et. Fait que j'ai écrit à Marie-Ève, puis on a repris contact. Tu sais, puis j'ai dit, ben, si tu as suivi un peu ce qui se passe, t'as vu que moi aussi, j'ai repris ma vie en main, puis tu sais, que j'ai combattu mes démons, puis tout. Fait que. Petit à petit, ça a été comme ça. Première rencontre, la awkwardness, rentrer les via là-dedans, ça a été mais ça s'est quand même fait quand même assez vite. Puis pas longtemps après qu'ils soient rentrés dans nos vies, on sortait la première saison de Max Olivia. Fait que lui, puis j'avais pas encore dit publiquement que j'avais un fils, je savais pas comment aborder le sujet. Puis lui, ça le confrontait beaucoup parce que il voyait des affiches de son père et sa sœur partout,
ouais.
Pendant que lui n'existait pas. T'sais. Puis je me souviens, puis ça avait été. La saison est en onde. La première saison, elle est en onde. On commençait la deuxième saison, puis ma fille avait eu tristement le décès de son chum, le cycliste du Mont-Royal, Clément.
Je savais pas ça?
Ben oui, celui, le cycliste qui est décédé.
Je savais pas qu'un cycliste est décédé.
Oh, mais c'était beau, mais c'était la grosse affaire en 2017-18.
Tu comprends pas? Moi, je suis dans une bulle. Moi, je sais rien.
Ben, je te l'apprends. Écoute,
qu'est-ce qui s'est arrivé?
Ben, il y a quelqu'un qui a fait un U-turn pendant qu'elle lui
descendait. Oh, c'était une auto. Moi, j'étais prêt à dire c'était une auto. Oh,
ouais,
fuck.
Ouais, ouais, non. Ça a été de toc. Écoute, tu sais, même je me souviens, c'était un peu le nerf de la guerre des élections municipales de 2018 entre Coderre puis Valérie Plante avec la promesse de on va faire quelque chose.
Quelqu'un a juste frappé.
Ouais, ouais. Aucune accusation. Absolument rien. S'en est tiré, Esti. Fucking une tape ses doigts. Merci, bonsoir. Anyway, regarde, je veux pas venir là-dessus.
Ouais, parce ouais, mais je savais pas, mais t'as vraiment, OK.
Fait qu'écoute, là, ma soeur, ma fille, c'est-tu, qui perd son chum.
Ouais, ça, c'est fou.
Exact. Mais on est toujours resté proche de la famille. Puis, l'été d'après, on s'en allait justement chez les parents de Clément, qui avaient dans le coin d'Entrelac, dans le Laurentide. Puis, c'était comme, on célébrait la fête de la soeur de Clément, Livia aussi, puis une couple de kids avec leur fête en même temps. Puis, j'y allais avec William, puis je me souviens juste que William m'a regardé un moment donné et me dit, là, il est temps que tu parles de moi. J'ai trouvé ça beau, c'était straight, c'était direct. Puis on arrive là, puis tout le monde est de bonne humeur. Puis même si, oui, il manque Clément, c'est la première fois depuis son décès que c'est un peu plus léger. On a du fun. Clairement, puis même la mère de ma fille, tout le monde est super proche, était venue. Puis j'étais avec Héloïse sur un espèce de matelas gonflable en plein milieu du lac. Puis elle dit, c'est que je tripe ton kid, il est hallucinant. Là. C'est la première fois qu'ils passaient vraiment du temps ensemble. Elle dit, peux-tu dire que je suis sa belle-mère? J'ai fait, tu peux dire que t'es sa belle-mère? Puis là, je nous ai regardé, mais j'ai fait, man, this is us. C'est un peu comme la série, il y avait quelque chose de beau.
Tu sentais bien.
Et j'ai dit, c'est là qu'on en parle. Puis c'est là que j'en ai parlé publiquement. Puis pas longtemps après, en fait, un an plus tard, puis je me souviens, William, on avait toujours la discussion, c'était. Il me dit, je sais que je suis dans la famille, mais j'ai l'impression que je me suis imposé dans votre famille. T'sais, j'ai fait, arrête. Je disais, Chris, vas-y.
T'es la famille.
T'es la famille que j'ai connue au jour 1 ou jour 1880. Tu comprends-tu? C'est comme, t'es dans la famille. Je veux dire, tu le sais. Mais il y avait quelque chose qui le gossait. Puis en même temps, on m'a appelé faire Bijoux de famille, l'émission animée par, par Charles Lafortune. Okay. Une des 42 émissions animées par Charles. Et il faisait un spécial héritier. C'était les enfants qui roastaient les parents. Fait qu'il y avait moi puis ma famille, il y avait Vincent, Dédine Duralet, puis son gars, Elliot. Et Marie-Josée Taillefer puis sa fille. Mais moi, quand ils m'ont appelé, ils ont dit, on voudrait que Liviot Rose, j'ai fait, si on fait ça, faut que William soit là. Ouais, mais tu les gens connaissent pas William, je pense pas que ça va passer. J'ai fait, ben dans ce cas-là, je vais passer mon tour, je ferai pas ça à mon kid, je peux pas. Ils m'ont rappelé, t'es sûr, j'ai fait, Chris, non, regarde, il existe, je veux que le monde le voit, je peux pas, tu sais. Fait que la deuxième fois, ils m'ont dit, OK, go. Fait qu'ils ont écrit un stand-up à mon gars puis à Livia. Il a livré ça comme, il est très British de son delivery, tu sais, très
pince sans
rien. Oh yeah. Il a scoré, il a tout arraché. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était comme genre, all right, là, je suis dans la famille. Et puis, je sais pas si c'était fait par passion ou par justement, tu sais. Là, tu vois, justement, on s'en parle parce que là, tu sais, on a le show des rebelles cet été. Là, j'ai écrit un 3-4 minutes. Il y a 2 pages et demie à prendre. Je voulais qu'on le fasse, mais là, je sais pas quand ça va diffuser, mais là, on a un show demain, le 13 juillet.
Demain, ouais, puis après une autre le 3 août.
Ouais, mais le 3 août, je pense que ça va être son baptême.
Ben, il y a le temps. Il y a tout un mois pour apprendre ça.
Puis ça fait d'un rebelle, c'est assez trash, merci.
Ben, si c'est toi qui as écrit ça, c'est sûr.
Ouais, je l'ai envoyé à sa mère, elle fait « OK, ouais, en tout cas... » William était mort de rire, ma soeur, sa soeur aussi, là, mais... Puis je vais voir si ça y tente après, tu sais, moi, c'est un peu ce qui est arrivé avec Livian, c'est comme, tu sais, « Try this », puis si t'aimes ça, go, tu sais.
Ouais.
C'est ça un peu le but de la vie. Je pense qu'en tant que parent, ton rôle, c'est de faire découvrir le plus d'affaires possible à tes enfants, puis après ça, ils choisiront ce qu'ils veulent faire.
Puis toi, ils sont quand même chanceux, tes enfants, parce que ils peuvent, c'est pas juste tu les rends dans une activité, ils peuvent voir de toi. Toi, t'en as fait plein de choses différentes dans les deux langues, anglais, français. Alors, s'ils ont des questions, ils peuvent venir. Ils disent, hey, papa, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Toi, tu peux dire, écoute, j'ai essayé ça, puis ça marche pas. Ou, fuck, ça, c'est un bon projet. Tu vois, alors, pour eux, c'est bon. Moi, par exemple, personne dans ma famille était dans les arts, dans le showbiz. Alors, pour moi, j'ai appris de Mike, j'ai appris de les gens que j'avais autour de moi, mais c'était vraiment le chaos au début. Tu sais, je savais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais.
Tu as l'impression d'avoir l'approbation de ta famille ou tu es encore lycéen?
Je m'en calissais un peu parce que je savais toujours que ma mère, c'était elle qui était importante pour moi. Puis je sais qu'elle avait beaucoup de confiance en moi. N'importe, si je voulais être un restaurateur ou n'importe quoi, je sais qu'elle était là. Comme si t'es heureux, moi je m'en fous.
Ça, c'est génial. Ça aide.
Ouais.
Puis le reste, donc, à partir de ce moment-là, tu te calisses, tu te fous des autres.
La majorité pensait pas que je peux faire qu'est-ce que je fais maintenant. Parce que tout le monde dans mon quartier, la majorité des gens que je parlais avec, ils ne voyaient pas la possibilité parce que personne ne faisait ça. C'était impossible.
Ouais.
C'est, alors, si tu ne vois pas quelqu'un qui te ressemble, qui peut faire quelque chose, des fois, tu penses que c'est impossible. C'est, quand j'étais sur Joe Rogan, c'était la folie. T'sais, il regardait live dans un bar, tout le monde était là pour me voir là-dessus. Était comme, je peux pas le croire, j'étais avec lui hier, devant le café.
Je te confirme que je suis jaloux. J'ai déjà fait sa première partie au Comedy Works à Montréal, mais il n'était pas hyper connu à l'époque.
Mais pour eux, c'était comme... T'sais, j'ai un gars de Park X, qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, ça commençait à être comme, oh, peut-être c'est possible. Si tu as du talent, tu peux faire plein de choses, rien ne peut t'arrêter. Mais il y a plein de gens qui pensent que si quelqu'un autour d'eux n'ont pas fait quelque chose, eux, ils ne peuvent jamais accomplir ça. Mais c'est pas vrai du tout. Tu peux toujours faire. Si tu mets un peu d'effort, tu peux accomplir plein de choses.
Ben, c'est parce que, tu sais, la loi de la réussite dans la vie est assez simple, merci. Puis on le répète beaucoup, puis on le sait, surtout en après-pandémie, les réseaux sociaux sont remplis de ces phrases-là, de « believe in yourself », croyez en ce que tu sais, travaille ta confiance, blablabla. Mais on devient tanné d'entendre ça, mais ça fait partie de l'équation. Puis on a des hauts, des bas, tu le sais, des fois je te parle, puis j'ai mes hauts, mes bas, puis t'arrêtes, toi-même tu me dis... Toi, ma fille, hier, on est allé lunch avec Preach, tout le monde a le même discours. Tout le monde m'a dit la même affaire. Ta gueule, puis fonce. Mais c'est drôle.
T'es Max Martin, puis t'oublies ça.
Ben, en quelque part, tu veux pas non plus trop le croire. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, mais il faut le croire quand on a besoin. Il y a des fois, tu me demandes des questions, puis je suis comme, t'es Maxime Martin, bro. Like, ça se fait pas. Let's go.
Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose que je guérirai jamais, je pense. L'insécurité quand je commence dans quelque chose.
Mais on a tout ça. Le syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Tous les bons ont ça. Je vois des gars qui sont délusionnels, qui pensent qu'ils sont le shit tout le temps.
Ouais.
Ça marche pas longtemps. T'as besoin, je pense, d'avoir ça pour que tu travailles plus fort.
Non, puis tu sais, c'est drôle parce que justement, tu sais, puis même hier avec Preach, c'était ça, c'était genre, tu sais, just do the shit, just shut the fuck up and do the shit, tu sais. Puis même Livia, puis ma fille a le même défaut que moi, on a des fois la tendance à trop suranalyser ce qu'on veut faire, puis même hier, tu sais, on t'allait manger après avoir passé du 5 Preach, puis c'était comme genre, ok, c'est assez, là, let's do the shit, là, tu sais, ouais. Comme, puis c'est un, tu sais, on en parlait avant de commencer le podcast aussi, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que le modèle d'affaires, tu sais, je me dis, est-ce que je vais encore m'entourer ou je veux me responsabiliser à faire mes choses moi-même, tu sais, de il y a quelque chose de très excitant quand je regarde tous ceux qui contrôlent 100% de ce qu'ils font. Tu sais, je pense que juste arriver à une certaine étape, que ce soit un podcast ou, tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux, que tu fais, OK, ça va bien, j'ai le following que je veux, ça me motive, ça me donne envie, ça rapporte parce que, veux pas, tu sais, ça fait partie maintenant de l'équation d'affaires aussi, tu sais. Donc, c'est
une job.
Oui, malgré ce que bien du monde disent, là, tu sais, mais oui. Fait que, mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'est drôle parce que moi, je pense que souvent, tu sais, ces réseaux sociaux, t'as des mange-marde, tu sais, je veux dire, tu sais, puis les gens disent, ouais, mais tu sais, c'est des gens qui ont souvent des problèmes de santé mentale. Non, il y a du monde qui sont juste aussi des hosties de trou de cul, tu sais, je veux dire, ouais. C'est quoi, mais c'est je pense vrai. Que des fois, tu reçois des messages qui reflètent ce que tu penses. Parce que moi, quand j'ai commencé le podcast, il y a presque un an, qu'est-ce qu'il y a, bébé chien? Moi, je sais que mon chien.
Moi aussi. L'eau. What up, dog?
Dog. Les deux peuvent s'asseoir un à côté de l'autre.
Ouais,
et,
ouais.
Et on leur donne une corde pour voir qui tire le plus fort. Mais, mais tu sais, c'est longtemps que j'y pensais. Je l'avais fait avec ma fille une couple de fois, tu sais. Mike, notre ami Mike Ward, c'est qui disait, man, qu'est-ce que tu fais des années qu'il m'en parle, tu sais. Puis. Et quand j'ai commencé, tu dis Saint-Nom des pasteurs, j'étais comme sérieux. Je n'étais même pas sûr que je le faisais pour les bonnes raisons. Je pense qu'il y avait une panique de je suis en train de retransformer ma vie. Je suis
supposé
ma carrière,
de faire ça.
Puis un gars qui m'a écrit partir un podcast pour inviter les mêmes personnes qui vont rencontrer les mêmes hosties d'histoire qu'on a entendu partout ailleurs. Bravo Maxime Martin. T'es un hostie de génie
t'es un business genius.
Et calice, mais il avait raison parce que c'est exactement comme ça que je me sentais.
Ah ouais, tu faisais juste.
J'avais peur. C'était vraiment genre, qu'est-ce que je suis en train de faire à partir d'un podcast quand il y en a fucking 50 par jour qui commence? Comment tu trouves une façon d'aller ailleurs et tout? Puis au début, il y avait ce côté-là de je veux rester dans l'œil du public pendant que je travaille, puis pas juste pendant que je travaille, mais tu sais, je niaise pas quand j'étais en crise à cinquantaine. C'était comme, qu'est-ce que je veux faire, là, tu sais? J'en ai plus de fêtes. Autant dans ma vie que dans ma carrière, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je veux avoir du fun. Je me suis sorti d'une des pires années de ma vie. Ce qui était numéro un sur ma liste, c'est juste retrouver un bonheur, être entouré de gens sains.
Ouais.
Et etc. Fait qu'au début, le podcast, c'était vraiment OK, ça va être un point d'ancrage pour l'instant. Mais Chris, j'ai vite tombé en amour. Puis là, tu vois, je vais commencer la saison 2 cet automne. Et là, j'ai trouvé un angle. T'sais, hier, j'ai un meeting avec la gang avec qui je travaille. Fait que c'est ça qui est beau à voir aussi, l'évolution de... Puis ça m'apprend beaucoup à lâcher prise. Puis sincèrement, Chris, que c'est une belle communauté parce que... Hey, viens faire mon podcast, m'en faire le tien.
Ouais, c'est fun.
Il y a une petite compétition, mais elle est saine. Contrairement à ce qu'on peut voir, tu sais, TV, radio, scène, je trouve que la communauté est hallucinante. Il y a quelque chose d'organique. Le monde se donne des idées. Je vois pas énormément dans d'autres endroits ou d'autres facettes du showbiz où ce que les gens se donnent des idées comme ça pour le fun, tu sais.
Ouais, ça c'est un bon fucking point. Je peux penser à ça, mais moi je reçois plein d'idées d'autres podcasteurs qui me disent hey, tu devais faire ça, tu devais inviter telle personne. Puis habituellement ils sont sur la coche. Comme j'ai plein d'invités du Frenchcast que je les connaissais pas du tout avant. Puis le monde m'a mentionné hey, tu dois vraiment les inviter. Puis c'était les podcasts les plus fun.
Ben oui.
Ouais.
Ben, tu sais, parce que moi, j'ai pas été avec un plan de match où je m'étais dit. Non, mais là, je vais lui donner de l'eau, là. On a-tu un bol? Là,
oh, on peut trouver. On a-tu un bol? Non, on a le. Get the big cup, the orange one, the Emile, the sans commentaire one, or even the Greek cups. You have the Greek cups there.
Tout le monde just a fait un one. Peu.
OK.
Ouais, merci, les boys.
Non, on s'occupe de.
Mais.
C'est chaud.
Tu sais, j'ai l'impression que de tu sais, c'est drôle parce que je me souviens, en plus, quand je travaille avec Chuck Thompson.
Oh ouais.
Sean Thompson. Et quand on a tourné notre 20e épisode, il a fait « Bravo, man ». Je fais « Bravo ». Il dit « On fait partie du 1%. » C'est là que j'ai appris que
les agresseurs sexuels, c'est ça que Chuck disait? Puis t'es comme Chuck, t'es tout seul, bro. Et quoi?
Non, mais il me disait qu'il y a 1% des podcasts se rendaient à l'épisode 20.
Ouais.
Là, on est rendu à 34. Mais tu sais, j'y vais des fois. J'invite du monde à qui j'ai envie de parler, des gens que je trouve inspirants, du monde qui ont, font une différence dans ma vie. Tu sais, comme. Mais. Tu sais, vraiment, tu sais, ces temps-ci, je suis sur en mode improvisation. Je regardais sur mon fil Facebook, puis quelqu'un que je suis, c'est Patrick Sénécal, l'auteur. Tu sais.
OK.
Puis j'avais jamais croisé un de ses statues. Par pur hasard. Et là, il montre une photo d'où est-ce qu'il est. C'est un super beau paysage. Il dit quel bel endroit pour être inspiré et écrire aujourd'hui. Puis j'écris juste un simple message de bel endroit, je sais pas comment tu fais, moi, quand c'est trop beau, j'ai de la misère à écrire. Je finis par, tu sais, me perdre dans ma tête puis regarder. Et il me répond, puis on s'échange. Puis je dis, hey, écris-moi donc en DM. Puis là, je l'ai invité au podcast. Puis ça a été, man, Chris, tellement magique. Tu sais, Philippe Fillon écrit, hey, man, ça fait des années qu'on s'était pas parlé. Il me dit, hey, man, ton podcast, c'est dans mes top 3 préférés de l'année, blablabla. Je dis, ben, viens-t'en en podcast, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, tout le monde me dit, OK, tu sais, la première année, t'as eu du fun, t'as appris à poser des questions, à avoir un peu plus d'écoute aussi, là, c'est mon grand défaut. Puis là, l'année 2, c'est que tu passes à une autre étape, tu sais, je fais. Et c'est ça que je trouve beau, c'est genre, OK, man, tu construis quelque chose. Puis j'ai l'impression que dans le monde du podcast, ceux qui sont, on va dire, je veux pas dire, comment dire, ceux qui le font pour les vraies raisons, avec une bonne mission, puis qui se tanneront pas justement après le cinquième épisode, tu sais, ouais, le 1%. J'ai l'impression qu'en même temps, même s'il y a une compétition saine, ça, c'est comme en train de devenir l'armée contre l'ancien établissement.
À 100%, t'as raison.
Des médias. C'est comme ça que moi je vois ça, puis je trouve ça intéressant d'être dans les tranchées. T'sais.
Puis à cause que c'est vraiment nous qui on a pris le contrôle, parce que sans les artistes, il n'y en a pas des shows sur Radio-Can, c'est les artistes qui font ça. Alors, dès que nous, on commence de prendre charge, eux, ils perdent un peu le contrôle. Là, on peut négocier. Tu vois, parce que nous, on a les oreilles, on a les yeux du monde, du public. C'est pas eux. Puis eux, ils commencent à apprendre ça. Puis ils sont un peu fâchés. Il y a encore des mouvements. Ils deviennent des fois un peu agressifs.
Ben, je pense qu'ils sont fâchés contre eux autres, en général.
C'est
parce
leur faute.
Ben, Chris, ça fait des années que ça s'en vient puis que ça se sent. Mais tu sais, je veux dire, la télévision, les médias en général, c'est très humain aussi en même temps. Je veux dire, c'est rare qu'on anticipe. On est plutôt en réaction toujours, tu sais. Je veux dire, ouais. L'environnement est un bon exemple, tu sais. Mais, fait que c'est sûr, parce que, écoute, je parlais avec Joe Robert, ça fait 10 ans que, dans des meetings, tu sais, de production, télé, peu importe, je disais, hey, aux États-Unis, en Europe, ils font ça, on s'en va vers ça. Les séries web, tu sais, de connexion avec arrête, si ça marchera jamais, il n'y aura
moi,
pas
ça
d'argent
fait 13
pour
ans.
Ça.
13 ans que je pousse pour les podcasts. J'avais commencé mon premier podcast en 2010.
Ah, ouais?
Ouais, de octobre 2010. Puis le monde était comme, ah, c'est quoi ça? Ça n'a pas marché, des podcasts, soit la radio, sur l'Internet. Puis moi, je voyais où ça s'en allait. Je dis, non, c'est ça le futur. Puis ça a pris des années avant que le monde rattrape qu'est-ce que je disais.
Ouais. Ben
puis,
oui.
Puis maintenant, j'ai une autre idée. On va parler après le podcast.
Okay.
J'ai une autre idée qui va marcher. Je parlais avec quelqu'un hier.
On vient de teaser les gens, pas à peu près.
Oh non, ils vont être très heureux. Si j'accomplis ma mission, et spécialement les fans de l'humour québécoise, vont être très, très heureux.
OK, mais je suis curieux.
On va te parler après.
OK. Ouais. On peut se arrêter le podcast? Là.
Non, non, je ne vais pas oublier. Je vais parler de
moi,
ça.
C'est sûr, je n'oublierai pas,
mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant.
Mais j'en doute pas, tu sais.
Tu fais partie de mon idée anyway, alors tu vas faire...
Pour vrai?
Ouais, tu vas voir, puis tu vas être comme tabarnak. Puis je parlais avec quelqu'un hier qui... J'ai besoin de lui, tu sais, de leur compagnie, tout ça, pour faire ça. Puis il était comme, ils ont pensé presque la même affaire. Let's fucking do this. Alors, ouais.
Ah, oh, wow.
Ouais, on va discuter.
OK. Non, mais tu sais, c'est ce que je trouve
c'est
beau.
C'est important d'innover.
Tu vas rire de moi, mais je fais attention à comment je vais commencer ça.
Parce les noirs! t'as pas fait assez attention.
Non, parce que j'ai déjà fait cette gaffe-là avec Mike Ward, aussi, de parler un peu de spiritualité. J'étais avec lui, puis Jeff Mercier à sous-écoute, man. Tu sais, la scène de tous les films de boxe où à la fin, avant le knockout, t'as les deux mains pour te protéger le visage pendant que l'autre te fucking verge à coup de ça, c'est ce que j'ai vécu, mais. Tu sais,
Jeff et Mike.
Non, mais là, écoute. Et deux athées, ceinture noire, là, tu sais, fin qu'un. Et Mais je sais que ça fait... Je veux pas que ça sonne biscuit chinois, mais... Puis tu sais, je regarde, c'est long parce que je regarde où est-ce que j'étais l'été passé, business-wise et mentalement, où est-ce que je suis cette année. C'est le fun. C'est le fun de voir, tu sais, quand justement... Mais il y a toujours des choses qui me reviennent en tête, comme, tu sais, avant qu'on commence le podcast. Finalement, c'est un gros agace parce qu'on a plus dit d'affaires assez avant, mais c'est la décision business que j'ai à prendre.
Ouais.
Hier, je pensais en courant, puis je courais dans le Vieux-Montréal, puis à un moment donné, je tombais face à face avec un petit cul qui était avec ses parents, mais son petit cul, c'était... sur son t-shirt, c'était juste marqué « Take more risks ». Quel petit cul de 10 ans, si, porte un chandail qui dit « Prends plus de chance, prends plus de risques ».
Il va se faire kidnapper par quelqu'un qui va prendre un risque.
Mais Chris, je te jure, ça m'a apaisé l'esprit. Ça a fait « OK, le t-shirt vient de me parler ». Moi, je sais que c'est un peu farfelu, ça fait très SimCity. Tu sais, mais oui, je trouve que des fois, quand tu te poses des questions, il y a toujours un petit clin d'œil de...
T'es là, puis tu regardes, puis tu es très pensif, puis les parents sont comme... Pourquoi tu regardes notre fils?
Pourquoi tu regardes le chest?
Ouais. Maxime, Martin! Qu'est-ce que tu fais?
Ouais, c'est sûr que si je t'ai arrêté devant, puis tu es vraiment contemplatif...
Hé, hey, non, reste là.
Ouais.
Je veux garder cette image dans ma tête pour plus tard.
Enlève ton t-shirt.
Non, je veux pas te voir sans t-shirt.
Je veux prendre le t-shirt. J'en ai besoin. Je vais l'accrocher comme mantra dans mon salon. Tu sais, fait que... Mais ouais, moi, je m'amuse. Présentement, je m'amuse énormément avec la vie, avec ces choses-là. Fait que... Puis, juste de t'entendre parler de. T'sais, j'ai l'impression que autant mes chums que la vie fait comme genre, allume Collins.
Tu sais, qu'est-ce que je m'aperçois? Ça arrive avec plein d'humoristes. Puis pas juste, mais c'est juste que moi, je suis entouré d'humoristes. C'est sûr que ça arrive dans tous les autres business aussi. Tout le monde aime ça, quelque chose qui est déjà fait pour eux puis déjà safe. Tu sais que c'est safe, par exemple, un job que tu peux rentrer à chaque jour puis tu te fais payer. Alors, habituellement, les humoristes, pas juste les humoristes, mais tous les artistes ont un peu peur de prendre une chance.
Ouais.
Mais ils sont toujours à deux ou trois pas de vraiment le paradis qu'ils veulent, tu vois. Par exemple, toi, tu as déjà fait tous ces efforts dans ta vie avec ton humour, ton stand-up, la radio, tout ce que tu as fait, tu as déjà développé une fanbase. Alors toi, tu as l'opportunité de créer tes propres affaires, les podcasts, tes propres tournées, tout ça. Mais des gens qui sont au même niveau que toi, ils vont être comme, je mets-tu une autre 10 heures par semaine ou 5 heures par semaine pour travailler, pour le faire ça moi-même? Non, je vais donner ça à quelqu'un d'autre pour le préparer pour moi comme des grandes tournées. Mais vous allez perdre 90% du revenu. Mais au moins, tu n'as rien à faire. Ouais, tu es safe.
C'est une décision.
Mais c'est toi. C'est toi. On vend toi. Alors, pas besoin de mettre fucking 1000 personnes, une grande boîte. Eux, ils vont mettre des pubs. Ils vont faire plein de choses. Alors là, tu sais, c'est comme les albums. La musique, ça se faisait aux États-Unis pendant des années.
Ouais.
Ils vendaient pour des fucking millions, puis ils faisaient 30 000 par année. C'est fou. C'est fou, ça.
Ouais, puis... En fait, parce que moi, mon dilemme est toujours... Tu sais, on se met en question, on est des bébés insécures, tu sais. Moi, ce que
Sugar
j'aime,
Sammy,
c'est...
il a son mailing list, il envoie ça, il vend ses billets sur Eventbrite. Il a déjà parlé avec Eventbrite, il a une bonne deal avec eux. C'est lui. Il va pas aller à d'autres boîtes pour le... Pourquoi? Mes fans vont venir me voir.
Ouais.
C'est moi qui vais décider. Je book une salle pour rien, tu sais. C'est ça.
Ouais, mais il a quand même atteint un assez gros statut aussi, tu sais.
Ouais, mais avec beaucoup de travail, c'est ça.
Exact.
Il y a plein de gens dans notre industrie qui ne veulent pas travailler. Ils ont peur du travail. Et je pense que c'est pas qu'ils sont paresseux, je pense qu'ils ont peur de mettre de l'effort puis après de ne pas atteindre un certain niveau.
On a peur de se tromper.
De se tromper, puis ils vont être des perdants. Mais non, tu vas perdre. Toi, tu as déjà perdu, je te dis dans ta vie, tu as probablement perdu, comme moi puis tout le monde, plus que tu as gagné, mais c'est juste que chaque fois que tu gagnes, c'est excessif. On va dire que tu as deux enfants.
Ouais.
Ça, déjà, ça, c'est deux victoires qui, même si tu avais une centaine de défaites, ces deux victoires-là sont plus beaux et plus grands que les 100 perdre. C'est ça qui arrive. Mais on perd plus qu'on gagne, c'est sûr.
Bon, j'ai l'impression, c'est comme quand Preach est venu à mon podcast, j'ai l'impression que j'ai des interventions partout, à gauche, par droite. Et j'aime ça, puis j'adore, puis... Tu sais, moi, ce que j'aime, en fait, c'est... Le but, c'est de trouver l'entre-deux. Une petite équipe. Tu sais, je pense pas faire mon booking moi-même sa prochaine tournée. Mais tu sais, justement...
T'es quelqu'un petit,
genre,
proche à toi.
C'est ça. Je me prends juste un booker ou j'embarque dans une production, comme on dit, qui fait... Tu sais, il y a une division de... Tu sais, des fois, tu te sens seul sur ton île, puis des fois, c'est le fun de faire partie d'une famille, entre guillemets, tu sais, parce qu'une production, souvent...
C'est toujours fun de faire partie.
Exactement. Fait, mais, comme tu dis... Parce que moi, j'aime ça quand je peux juste m'occuper. J'aime ça quand ma seule job, c'est de créer. Comme là, tu vois, je veux dire, j'ai engagé quelqu'un qui m'aide à prendre à publier des extraits du podcast. Ouais. Des affaires de même, parce que ça me tente pas de faire ça.
Bien sûr.
Hein. Fait qu'il y a quand même des choses qui sont fun à déléguer.
À KO, est-ce qu'ils produisent tout ça puis ils te donnent le produit final?
Moi, à KO, je fais juste louer l'espace.
OK, c'est ça.
Tu sais, comme je te dis, je paye Chuck, je paye Marie-Ève. Marie-Ève Châteauneuf, qui a travaillé avec Sexe Oral, puis avec, même, je pense qu'avec Couple Ouvert, c'est elle qui s'occupe. Tu sais, justement, on a soupé tout le monde cette semaine avec Maude aussi, qui est comme mon bras droit. C'est la première fois que tout le monde se voyait autour de la même table. C'est genre, OK, c'est là qu'il y a eu cette espèce de, OK, c'est quoi le plan d'affaires pour la deuxième saison pour continuer de grandir? Tu sais, je trouve ça intéressant. Comme là, cet été, on a tapé plein d'épisodes pour travailler. Tu sais, j'ai un Patreon qui existe, mais je pense que j'ai 3 personnes dessus, mais je l'ai pas encore plugué. Mais j'attendais de le rendre intéressant et sexy. Puis là, cet été, ça me permet de travailler là-dessus pour arriver cet automne, puis bang, le Patreon plus le bonus de ci, ça.
Veux-tu que je te donne some insider knowledge sur Patreon?
S'il vous plaît.
Ils se préparent maintenant, ça c'est une autre avenue, opportunité pour toi, ils préparent maintenant des forfaits. Tu sais, maintenant tu payes par mois puis tu reçois qu'est-ce que tu leur donnes si tu es un Patreon. Ils vont avoir la possibilité de charger, si tu veux, tu peux vendre des one-off, des choses physiques ou digitales, numériques. Alors, si tu veux, tu peux enregistrer une special puis tu peux le vendre directement à tes Patreons. Puis si même quelqu'un n'est pas abonné à ton Patreon, il peut aller puis OK, 3 pièces, ça coûte pour son special. Je peux acheter juste son special. Je n'ai pas besoin de m'abonner à chaque mois. Alors là, imagine que tu as une centaine de Patreons, 1000 Patreons, it doesn't matter, ou tu as zéro, mais tu as des fans. Tu peux le vendre directement à eux. Ton heure, une podcast spéciale, tu peux le vendre à 2 pièces, mais pour. Tu sais, n'importe quoi, ou des t-shirts, tu peux le vendre directement, puis après l'envoyer. Et ça va te donner plein d'options, puis ça va sortir dans les prochains 2 mois, je pense, toutes ces features-là.
Ah ouais, mais c'est parfait, parce que tu vois, nous autres, on a tapé beaucoup d'épisodes en juin pour sortir en septembre, parce qu'il y a aussi dans le Patreon quelque chose que je veux appeler la tribu à Max, qui est pour vraiment les crinqués qui sont des fans, mais tu sais, ceux qui ont des passions comme moi, ce qu'on peut explorer plus, justement, l'entraînement, la nutrition, puis oui, le côté un peu plus spirituel. Tu sais, j'ai parlé avec une fille qui est une cartomancienne, qui est devenue une amie, qui s'appelle Cynthia Rose. On parlait
c'est
pas.
Cool name.
Yeah, I know. Puis, on parlait justement, tu sais, elle est très hindouisme, tu sais. Puis, on parle pas de religion classique, là, c'est pas une secte, tu sais. Mais, tu sais, comme, moi, j'ai commencé à lire plus sur les philosophies, tu sais, le stoïcisme, tu sais, le taoïsme, tu sais. C'est façons différentes de penser que je trouve hyper intéressantes, tu sais, dans cette quête-là. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir. Puis de faire ça dans un, j'appelle pas ça un club privé, mais un peu, là, tu sais, genre, moi, ce que je veux, tu sais, j'ai le forfait, évidemment, accès au podcast, puis ça, c'est un petit à part, parce que, justement, tu sais, là, je suis en train de sortir le livre, faire des rendez-vous, tu sais, je vais avoir l'intimité avec les gens, comme genre, hey, vendredi, ou je sais pas, dimanche, je vais vous lire 5-6 pages de mon livre, je vais avoir votre feedback, hey, j'ai un nouveau 5 minutes avant que j'aille le faire au bordel, moi, vous le lire sur, tu sais, c'est quelque chose que je veux faire pour avoir. Tu sais, on a tendance à avoir souvent le côté négatif des réseaux sociaux parce que l'être humain focus sur. Tu le sais, je t'apprends rien. Là, si on a 100, t'as 100 messages qui disent « Hey, Pantelis, you're a fucking amazing guy. » Puis il y en a un qui dit « T'es un esti d'épais. »
Pourquoi?
C'est
une épée.
c'est lui qui va te rester dans la tête. On est mal fait pour ça. Fait que c'est pour ça aussi d'avoir ce côté-là où est-ce qu'on peut juste être dans un monde un peu plus sain puis d'être entouré. Moi, c'est ça que j'aime parce que. Honnêtement, tu sais, je l'ai dit l'année passée, ça a été une crise d'année difficile. Puis je me suis pris en main, je suis retourné consulter, ma fille, tu sais, l'amour des gens proches de moi, mais les beaux messages que je recevais sur Facebook, Instagram, peu importe, Chris aussi, ça m'a fait du bien, tu sais. Puis c'est ça je trouve qu'on a tendance, malheureusement, à prendre pour acquis. On voit juste la marde de ce monter à la surface, mais il y a tellement de belles choses qui se passent aussi, il y a tellement de belles histoires, tu sais. Il y a juste TikTok, tant qu'à moi, qui est vraiment, c'est un mal nécessaire, si tu me le demandes, là, mais.
Tu le veux pas? Tu l'aimes pas?
Ben, c'est peut-être parce que mon algorithme. Mais j'ai jamais vu autant de haine et de commentaires gratuits et juste.
Ah ouais, hein?
Je vois.
Moi, j'ai ma page TikTok, puis des fois, je vais uploader quelque chose, mais je regarde pas les commentaires. Je upload, puis j'oublie que j'ai TikTok. Alors. Peut-être j'ai plein de commentaires qui me disent d'aller me faire foutre, mais je n'ai pas regardé.
Ouais, ben en fait, c'est long parce qu'encore hier, c'est long, j'avais la même discussion avec Preach, puis tiens, non, dis, t'arrêtes d'aller. Parce que un moment donné, j'avais fait quelque chose. J'ai reçu Zoé Duval au podcast, puis il gagne sa vie en étant influenceur, blablabla. Puis là, les gens commentaient, c'est pas une vraie job, tatata, tu sais, puis là, quelqu'un. Parce que je parlais de ma fille, tu sais, qui. Ça fait partie aussi de sa vie d'être. Puis quelqu'un a ramassé ma fille, puis l'autre disait, ouais, de toute façon, elle a tout eu dans la vie parce que c'est son père qui a ouvert les portes. Puis j'ai fait, mais c'est beau, ça. Et moi, j'ai vu, ce que tu viens de dire publiquement, c'est, t'as envie de la relation que j'ai avec ma fille, parce que si ton père t'avait ouvert des portes, tu verrais pas ça de même. Tu verrais comme, waouh, c'est dommage génial d'avoir une synergie de famille où papa, maman, tu sais, le but dans la vie d'être un parent, c'est que tes enfants te dépassent, puis.
Mais ta fille, elle fait quoi maintenant?
Elle fait un peu de tout. Évidemment, elle était comédienne quand on a eu les 3 années de Max et Livia. Pendant
alors,
la pandémie,
elle est talentueuse. Elle a des talents.
Tu vois, elle chante, okay, elle danse, man. C'est... Exact. Puis là, elle fait beaucoup de trucs de. Qu'est-ce que tu l'as vu, ma fille, là, tu veux dire?
Je me rappelle pas de qu'est-ce qu'elle a l'air, mais je me souviens que la première fois que je l'ai vue, j'ai dit « fuck, sa blonde est jeune ».
Exactement.
Je me souviens qu'elle était jeune.
Mais, fait que, tu sais, elle est très dans la création. Là, comme je te dis, on travaille sur des projets ensemble. Mais oui, tu sais, elle est aussi influenceur, tu sais. Mais ça l'a amené à faire des voyages à Hawaï, en Californie, le tour du sud-ouest américain. Tu sais, ça y apporte une belle vie. C'est pas
elle est-tu bilingue?
Oui.
Ah, oh, OK, alors elle a plein. Ouais. Elle a plein de portes. Ouvert pour elle.
Mais là, ça fait partie des plans aussi, tu sais, je veux dire. Tu vois, j'ai recommencé à jouer en anglais, là, j'ai mis ça de côté cette année parce que je travaille des affaires, mais moi, la pandémie m'a rendu claustrophobe. Puis tu sais, le Québec, c'est pas petit, là, je veux dire, tu sais, la France, ça rentre 6 fois dans le Québec, je pense, en affaire de même.
Ouais.
Puis tu sais, c'est immense, le Québec, mais à la fin de la pandémie, je me sentais, c'était en train d'étouffer. Tu sais, c'est le fun Gatineau, puis c'est le fun Gaspé, mais Chris, à un moment donné, tu sais, tu veux, il y a un monde à découvrir, puis... Ouais, j'ai comme envie de mettre un peu de d'ingrédients anglophones dans. Ben, je le fais déjà avec Éric Gagné parce que le podcast que je fais sur le baseball avec Éric, on le fait en français et en anglais. Mais c'est comme. Et c'est ce qui est le fun aussi du web, c'est que ça te permet d'avoir. Il n'y a pas de frontières.
Il n'y a pas de frontières, puis en plus, tu peux avoir beaucoup de fun au Canada parce qu'il y a plein de Québécois, expats, qui habitent partout.
Ouais.
Qui parlent anglais puis français, puis ils sont excités. Comme j'étais avec Mike à Toronto pour le podcast puis son stand-up. Puis c'était fun de voir, premièrement, c'était fun de voir les francophones qui habitent à Toronto et ont venu checker sous-écoute en français. Pour moi, c'était spécial de les voir là. Puis tu sais, je sais que pendant leur vie, de lundi à vendredi au travail, ils doivent parler anglais. Puis c'est fun, ils sont bilingues, mais tu peux leur voir et être excité comme « Ah, c'est bon ». C'est d'avoir quelqu'un qui nous parle en français, c'était fun, c'est leur langue maternelle. Puis aussi, quand on a fait le show en anglais, les Québécois bilingues qui étaient juste heureux de voir des Québécois performer pour eux, c'est beaucoup de fun. Puis ils sont partout au Canada. Tu peux aller faire ça en anglais, en Alberta, pour des gens qui, la majorité vont être des Québécois, on va dire. Alors, ils sont parfaitement bilingues,
ben oui.
Mais ils vont apprécier ça que « Hey, shit, Max Martin est là ». Tu vois, c'est fun pour... Alors, tu as l'opportunité, juste au Canada, déjà, de faire ça en anglais, puis être quand même connecté avec les Québécois. Puis en plus, avec un peu de pratique, là, t'es comme, OK, tu sais quoi? Fuck it, on va sud un peu. Puis tu commences à essayer les États-Unis.
Ben, écoute...
Il y a plein d'opportunités.
Tu sais ce que Abba and Preach sont en train de faire en partant de leur première tournée...
Aux États-Unis. Ça commence dans les États, pour eux, ouais.
Puis je veux dire, tu sais, si c'était pas de cette nouvelle façon de faire les choses, Mike fait pas sous-écoute en Europe il y a un mois, là, tu comprends-tu? Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est vraiment merveilleux, puis... Il y a un je m'en foutisme sain qui est intéressant là-dedans. Tu sais, c'était drôle parce que hier, justement, pendant qu'on lunchait, il y a quelqu'un qui a reconnu Preach, qui était un haïtien, mais qui parlait français. Un haïtien anglophone, c'est quand même quelqu'un de souche haïtienne, mais qui parlait pas français, mais qui parlait anglais, puis les deux se sont mis à jaser, puis c'était comme, man. Pour moi, c'était comme, man. Tu peux rêver grand.
Ouais, tu peux, ouais.
Faut juste que tu le fasses. Là, je suis en train de me parler.
Non, mais tu, c'est fun
je
maintenant.
C'est ma propre intervention maintenant. Là, tu sais.
Moi, maintenant, on vit dans le meilleur temps pour les gens qui veulent se divertir ou n'importe. Parce que l'accès est vraiment facile. Tout est accessible avec l'Internet et tout ça. Tu as plein de podcasts, tu as plein de vidéos. On oublie même nous, les humoristes. Si tu as besoin de n'importe quoi, tu peux le trouver maintenant.
Ouais.
Alors, c'est juste à nous, les gens qui créent des choses, de mettre de l'effort, innover, puis trouver une bonne niche, parce que moi, je veux pas les yeux et les oreilles de tout le monde. Moi, je veux le niche qui aime qu'est-ce que je fais, puis j'aime ça connecter avec eux, puis je travaille dans ça, j'aime ça, tu sais, les gens qui ils apprécient qu'est-ce que tu fais, puis tes jokes sont pour eux. Ils comprennent qu'est-ce que tu veux dire, ils arrêtent pas au premier degré, puis ils essayent de lire trop, tu vois, ils savent qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment avec eux que tu peux vivre.
Ouais.
Tu vois? Moi, je veux pas gagner je veux pas gagner l'amour des gens qui vont me détester ou qui m'aiment pas déjà, je m'en fous.
C'est C'est génial. C'est la première chose que tout le monde qui rentre dans le show business, peu importe que ce soit de l'humour, de la musique ou peu importe. Moi, j'aurais aimé ça comprendre ça plus vite. Moi, là, ma vingtaine, ma trentaine.
Tu voulais plaire à tout le monde, faire
ben
plaire
exactement,
à tout le monde.
Exactement, mais tu sais, je veux dire. Tu sais, pendant. Jusqu'à temps que Mike éclate, tu sais, j'étais le seul mouton noir dans le paysage, là. Tu sais, je veux dire, moi, ma génération, c'était Mascotte, Morancy, Anctil, Mario Jean, Lise Dion. C'était quand même assez clean et safe comme humour, là. Et à travers ça, t'as un Maxime Martin, puis j'étais tout seul, fait que j'avais pas de corpo comme tout le monde, tu sais. Je veux dire, pendant que les autres qui gagnaient des centaines de milliers de dollars, moi, j'étais encore à 30 000 par année pour prendre le métro, tu sais. Fait que c'était confrontant. Après ça, Mike est arrivé, ça comme, tu sais, mais. Et tu comprends pas. Et comme j'ai dit, c'est pas comme aujourd'hui, ce que tu peux te créer ta niche puis faire comme genre fuck off, j'allais mon following. Tu l'as, t'as des chiffres. T'as des chiffres sur Instagram, t'as des chiffres sur Facebook, mais à l'époque, tu le sais pas. On parle de ça dans les années 90. Fait que toi aussi, tu veux vendre des billets. Fait que c'était toujours. Puis chaque producteur que j'avais me disait aussi même affaire. Faut trouver une façon de faire le pont. Pour que tu passes plus, que tu sais que les gens aient pas juste cette image-là d'un gars vulgaire, parce que, tu sais, je l'ai toujours dit, au Québec, maintenant, pas sûr au Québec, partout, mais Bill Hicks, qui est mon idole, moi, je me suis toujours considéré un disciple de Bill Hicks, était exactement le même. Je pense qu'il y avait un humour, ben, tout le monde le sait, c'est un humour hyper brillant, hyper intelligent, mais qui est aussi très trash et très, par moments, vulgaire.
Puis très confrontationnel.
Exact.
Mais ça, confronté.
Mais c'était, ben oui. Fait que moi, je me suis, tu sais, comme je l'ai dit, je c'est venu me chercher. T'sais, moi, c'est comme, ah, voici le genre d'humour que je veux faire, tu sais. Mais, moindrement que tu parles de cul, on oublie aussi que t'es capable d'avoir des propos qui dénoncent, qui confrontent, qui sont intelligents. Fait que, on a vite mis l'étiquette. Vulgaire! OK, c'est réglé!
Mais fait c'était quand même parce que le stand-up était nouveau, ici, au Québec. Alors, ils savaient pas comment classifier les choses. C'était plus simplifié au début parce qu'ils savaient pas, OK, ça marche sur la télé, ça c'est vulgaire. C'était juste ça. Il n'y avait pas des niches, des subcultures. Maintenant, il y en a tout.
Mais non, mais oublie pas qu'il y avait aussi trois postes de télé. Là. Tu avais Radio Can, c'était même pas TVA. Là. C'était, je me demande si c'était pas encore Télémétropole. C'était TQS. Oh, là.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu sais, moi, mes chums faisaient... Mes chums étaient à Radio-Can pis à TVA parce qu'ils étaient très mainstream. Moi, je passais à TQS parce que c'était le mouton noir, justement.
Ah ouais,
moi,
le mouton noir de la télé. Ouais, je m'en souviens. Ouais.
Moi, je dois une fière chandelle à Sonia Benezra, la seule qui prenait une chance, qui me donnait du... qui m'invitait régulièrement à faire un stand-up sur son émission, tu sais.
T'as vu ça?
Ouais.
Il y a toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un qui voit de l'avant, ça. Comme, non, il y a quelque chose ici.
Fait que, tu sais, honnêtement, je pense, évidemment, ça s'applique dans la vie en général, tu sais. C'est l'affaire la plus tough. Arrêter d'envier, puis, tu sais, juste te concentrer sur ceux qui t'aiment, puis... En fait, parce que moi, je me suis rendu compte que la seconde que j'ai lâché prise sur essayer de faire plaisir à tout le monde, ma base de fans s'est agrandie.
Tu vois?
Oui, tu sais, le livre, les gens ont lu mon livre, ont compris quand même le personnage, ont compris pourquoi que pendant des années, j'avais l'air d'un gars en tabarnak contre tout.
Moi, j'avais l'impression que tous tes fans ne savent pas comment lire. Alors ça, c'était impressionnant.
Man, on était à ça d'un spit-take, esti.
Je pense que je t'avais. Je pensais que je t'avais.
Man, bon timing en plus, esti. Je l'avais dans la gueule, la gorgée d'eau. C'est comme, oui, en fait, oui, on peut penser que la part de mes fans dessine dans une grotte avec une roche. Et vont, OK, si on veut chasser le chevreuil, suivre la flèche. Mais, mais ouais, puis... C'est-tu, même à ça, même les affaires, tu sais, j'écoute, moi, j'ai passé tellement d'années quand j'avais des chums qui pognaient un show télé, un ci, un ça, faire tabarnak. Tu sais, hypocritement dire, hey, je suis content pour toi, mais c'était fucking bullshit.
Ah, t'étais fâché.
Mais j'étais jaloux, j'étais insécure, puis j'étais.
Tu penses, mais.
Puis maintenant, je m'en fous, tu sais, dans le sens.
Ça change rien pour toi. Tout le monde. Si quelqu'un gagne, ça veut pas dire que toi, tu perds. C'est pas une vraie compétition. Quelqu'un va pas dire, yo, moi j'ai déjà acheté une billet pour Mike Ward, je peux pas aller voir Max Martin. Ça marche pas comme ça. Mais ça, ça prend fait, du temps.
Que, moi, je pense que Mike a marqué ça sur CBS. Si vous êtes à mon show... Oh, j'ai dû passer proche aussi. Okay. C'est le concours de spectacle.
Ouais, si tu t'achètes une billet, t'as pas le droit d'aller voir Max.
Ouais,
spécifiquement, juste toi. Tu sais, ça, c'est du bon marketing.
Faut que tu choisisses ton humour trash. Tu peux pas coucher avec tous les trashers. C'est soit Mike, GF, Mariana, moi.
Ça, c'est du bon marketing. Comme sur les billets, si t'écris quelque chose de drôle comme ça, puis tu donnes les dates de l'autre humoriste, puis ils sont comme, ah, c'est drôle, ok, je vais acheter des billets pour lui aussi. Ça, c'est du bon marketing. Ça, c'est des choses drôles puis innovatives. J'aime ça.
C'est drôle, c'est quelque chose que je voyais en France, que j'ai jamais vu au Québec. À la fin d'un show, souvent, c'est genre... Hey, j'ai aussi mon chum qui joue pas loin d'ici, je vous encourage à aller le voir. Il y avait de l'auto-promo. Il y en a moins maintenant parce que les autres ici sont rendus tellement nombreux que là, la compétition est comme devenue pas mal saine, mais tout le monde tire la couverture de son bord. Là. Mais je me souviens, moi, quand j'étais là en 2007-2008, « Hey, si vous voulez voir, merci d'avoir été ce soir. Moi, je suis allé voir tel show. J'ai vraiment ri. Tu sais, il y avait cette espèce de petit truc-là. »
J'aime ça.
Communautaire aussi, qui était bien, bien le fun. Mais maintenant, c'est comme un peu partout. Il y a Christmas. Je veux dire, il y a tellement de clubs maintenant. Il y a tellement d'humoristes. Il y a tellement...
Puis mais ça arrive, tu sais, au bordel, par exemple. Des fois, moi, je parle pas de ça, mais je rentre sur la scène. Quand je sors, tu sais, l'MC, l'animateur, va dire « Hey, si vous avez aimé Pantelis, il fait son show, ouais. Les Rebelles, telle date. » Puis, je suis comme « Fuck! » Tu sais, il s'est informé de qu'est-ce que je fais, puis il va juste le plugger.
Okay, c'est même pas toi qui l'a dit.
Non, c'est pour ça que je te dis, je trouve ça cool. Puis après, je vois, tu sais, Simon Boisvert fait ça, Nick O'Day, il fait ça. Puis c'est drôle de voir ça, c'est comme c'est cool, parce qu'ils font leur recherche, puis après, ils vont plugger tes shows.
C'est fucking gentil, ça.
Ouais.
Ah, oh, ouais, c'est vraiment cool.
Puis spécialement, si tu fais les 60 minutes au bordel, là, ils vont le savoir parce que c'est partout. Ouais. Alors là, ils vont le dire, c'est sûr. Et si vous avez mis lui pendant 10 minutes, tu peux venir la semaine prochaine ici au bordel puis le voir pendant une heure. C'est cool.
Ben, tu vois, parce que moi, évidemment, pendant la pandémie, j'ai jamais réussi à rien écrire comme 95% des humoristes. Ouais. Chapeau à ceux qui ont réussi. Quand on a commencé à se déconfiner... Tu sais, moi, c'est rare que je vais aller dans un comedy club de Montréal ou même maintenant de Québec, parce que même Québec, il y a des belles soirées maintenant aussi. Mm-hmm. Faire du stock de mon show qui fonctionne déjà, là, tu sais, je veux dire. Non, j'ai l'impression pas que je triche le public, mais parce que je pourrais m'en servir juste pour dire, parce qu'évidemment, on s'est ennuyé de la scène. La pandémie, pour la plupart de ceux qui pratiquent le métier, t'as fait réaliser à quel point... Hey, moi, je me souviens la première fois... On avait été confinés en mars. En juillet, il avait brièvement ouvert le bordel avec
les
plexiglas sur scène, entre les spectateurs. Il y avait 30 personnes.
Ouais, moi, je faisais du stand-up et je voyais juste ma face dans le plexiglas.
Exact.
C'était bizarre.
Chris, je me sentais comme un poisson rouge dans un aquarium. Mais je me souviens la première fois que j'ai entendu un.
Moi, j'étais une baleine.
T'étais une baleine? Ok, moi, j'étais un fuck. Mais juste la première fois que j'ai entendu un rire devenir ému, là, genre. Ah, j'avais oublié la joie de ce son-là dans mes oreilles, du monde qui te trouve drôle, tu sais. Puis là, tu vois...
Ça nous a pris du temps, hein? Ça nous a pris des mois. Le public n'était pas vraiment normal. Ça a pris peut-être plus qu'un an. Puis maintenant, ça commence... Je vois ça que le monde, ils sont plus confortables, ils rient comme c'était avant. Ça a pris du temps. On était vraiment...
Ouais, parce que c'était aussi pendant... Tu sais, c'est comme... Il y avait maintenant une nervosité de généraliser, puis pas juste au Québec, mais mondial, de... Bon, on a le droit de rire de quoi?
Ah.
Puis moi, je vois la différence. Quand tu vas en... Puis je suis sûr que tu as remarqué la même affaire. Quand tu vas en région, tu peux aborder des sujets plus crunchy que tu fais dans les grandes villes.
Ouais.
Récemment, là, j'ai joué dans une couple de clubs ici à Montréal. Là. C'est sûr qu'il y a des soirées qui sont plus trash parce que c'est plus facile de... Mais j'ai souvent vu du public se regarder entre eux avant de rire.
Ouais.
Tu sais, le gag osé qui est sur la ligne. Là. Je parle pas le gag dépassé, mais qui va trop loin, là, tu sais. Non, tu sais, le gag qui te rend mal à l'aise, qui te questionne, ce qui pour moi est le secret de l'humour, tu sais. Tu sais, une expression en humour que j'adore qui dit l'ennemi du roi, c'est pas le roi en face, mais le fou dans sa cour. C'est notre job, c'est à nous autres de brasser les choses. L'humour a toujours été un miroir de société. Fait quand tu joues juste sur cette ligne-là fine, et de faire un gag où les gens sont en espèce de in-between.
Ils sont pas trop sûrs. Ils veulent rire, mais...
Exact. Et là, ils vont se regarder. Et s'il y en a un qui rit, là, il y a peut-être un effet de vague. Mais tu fais comme... Are you fucking serious, ce style-là? C'est comme... Ça prend une approbation collective du public avant de dire... OK, on te la donne, celle-là.
Parce que tout le monde a peur, il ne va pas se faire canceller. Il pense, oh, si je ris à ça, le monde va penser que je suis tel type de personne. Ouais. Il pense trop à cause des réseaux.
Non, mais c'est, honnêtement, tu sais.
Ça doit être. Tu ne vas pas penser trop pour l'humour. Juste, si c'est drôle puis tu veux rire, c'est ça ton instinct naturel, c'est drôle. Alors, tu peux rire.
Mais tu sais, je sais qu'à la base, on essaie d'aseptiser la société, puis on essaie. Il n'y a plus personne qui va avoir de mal. On sait que la santé mentale est exposée pour les bonnes raisons. Et même moi, ça me fait prendre conscience de. Tu sais, de gags que j'ai pu faire à l'époque sur, mettons, les gros, il y a 15-20 ans, qui devaient faire de la peine à du monde, tu sais. Ouais. Puis ce que j'aime maintenant, c'est d'être capable... J'avais cette discussion-là, OK, sans faire de gags... Tu sais, moi, j'ai des chums qui ont des problèmes de poids. Et je peux, tu sais, il y a l'acceptation corporelle, mais je peux aussi t'encourager à être en santé. C'est deux choses, c'est deux discours.
Puis aussi, je peux te niaiser. Je peux buster tes balls, c'est ça la vie.
Ouais, ben c'est ce que je m'en allais dire, c'est qu'il faut aussi, tu sais, réaliser que... Tu sais, même dans le village des Schtroumpfs, il y a Gargamel, tu sais. Ouais. Fait il n'y a pas d'endroit nulle part dans le monde où ce que tu te feras pas, t'auras pas un bobo psychologique ou physique, c'est ça la vie. Du moment que t'es né jusqu'à temps que tu crèves, il va y avoir des claques sur la gueule. T'as beau vouloir, j'ai l'impression qu'on veut que tout le monde vive dans une espèce d'enveloppé de papier bulle. Impossible. C'est pas ça la vie, puis ça arrivera pas. Puis de toute façon, c'est pas ça qui te fait grandir anyway. C'est les claques sans lien que t'as reçues qui fait que tu, justement, t'es capable de rebondir pis savoir ce que tu veux puis d'avancer puis de monter les échelons. Je veux dire, la vie n'est pas, sti, un nuage blanc avec de la musique de harpe, sti, jusqu'à temps que tu crèves, là.
Ça serait beau.
Ça serait merveilleux. Rajoute une pipe là-dedans, si de temps en temps, puis...
ouais, oh! En parlant de... Non, ben, c'est pas relié au pipe, mais c'est quelque chose que je veux savoir ton avis à toi. Qu'est-ce que tu penses? Quand j'étais avec Mike, on est allé à Toronto.
Ouais.
C'est à Montréal, on niaise beaucoup le Toronto et tout ça. Les Torontoniens, c'est juste innate, c'est, on veut toujours leur faire chier. Mais je dois avouer, Toronto est devenu une vraie ville.
Ah, tellement.
C'est immense. Ils ont de tout. C'est un peu comme les États-Unis, comme les grandes villes des États-Unis.
Ben, c'est la quatrième plus grosse ville d'Amérique du Nord.
Écoute.
Ils sont après New York, Chicago puis Los Angeles.
Puis, ils n'arrêtent pas. On était là, il y avait plein de nouveaux constructions de condos, ouais. De grands autres immeubles, tout ça. Puis, j'étais impressionné. Puis, ça m'a vraiment fait voir comment Montréal est petit.
Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, à mes débuts, dans les années 90, quand je suis parti de l'Ouest canadien, puis je suis venu m'installer à Montréal, puis je vois souvent au Comedy Works, puis la plupart des headliners venaient de Toronto, soit Toronto ou New York. Ouais. Et... tout le monde, que tu venais de Montréal ou Toronto, peu importe, tout le monde faisait des gags sur Toronto.
Ouais.
Puis, encensait Montréal pour son côté party, artistique, belle ville, belle femme, blablabla. Bla, bla. Et maintenant, c'est le contraire. Montréal est devenu une crise de joke. Moi, là, honnêtement, j'y voyais... Moi, au printemps, là, j'ai fait 7 pays, 3 continents, 70 000 kilomètres dans le port en avion, là. Puis, à chaque fois que je revenais, ça prenait 2 secondes que j'étais en tabarnak. T'sais, j'arrivais à l'aéroport, je prenais ma valise, je prenais un taxi pour revenir chez nous. Puis là, les calices de route, asti, c'est fucking. Je trouve ça triste pour, tu sais, dans le temps de Jean Drapeau, des années 70, tu sais, amener l'Expo 67, ça veut plus rien dire l'Expo 67, mais à l'époque c'était big. Tu sais, le métro, la création de la ronde, qui était, tu sais, les expos de Montréal, amener une équipe du baseball majeur ici. What
les
the
lumières
fuck,
partout au Québec, allumer toutes les routes.
Et là, on n'a plus ça. On a comme abandonné, tu sais, à la corruption, on a abandonné. Tu sais, maintenant je dis Montréal.
C'est Gotham City.
Ben, c'est là où les bonnes idées viennent mourir. C'est là où... Tu sais, je vais donner un exemple bien vite. Tu parlais de Toronto. Toronto, il y a tellement d'endroits. C'est sur le bord de l'eau que tu peux te baigner dans Toronto. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai envie Montréal.
L'aéroport Billy Bishop?
Ouais.
Et au centre-ville. Moi, puis Mike, on atterrit, puis t'es comme, mais ça, c'est bizarre. On sort, puis on est dans le centre-ville?
Ouais.
Ah, comme
c'est
moi,
pas sur une île, c'est sur une île, je pense.
Sur une île. Puis tu
traverses, ouais.
C'est ça, tu traverses, puis t'es au centre-ville. Le Scotiabank Arena, puis tout ça, ouais. C'est juste à côté.
C'est Rogers Center, puis tout.
Fou.
Ah non, puis moi, tu sais, j'ai été une couple de fois pour, tu sais, soit faire des spectacles ou justement, tu sais, aller voir du sport. Puis Chris, ça vibre Toronto,
ouais,
c'est
vibre.
Vivant. Tu cours sur le bord de l'eau. Tu sais, moi, j'habite dans Vieux-Montréal. L'eau est là. Il y a un triathlon dans Vieux-Montréal qui s'appelle, qui fait partie. C'est un des événements qui est dans le palmarès pour les championnats du monde. Ça s'appelle la Coupe Copley. C'est un de mes chums, Patrice Brunet, qui organise ça. Fait que, tu sais, le dimanche matin, t'as les amateurs comme moi qui... Puis l'après-midi, c'est les pros. Et la partie natation se fait dans le bassin, dans le coin du Bota-Bota. Ça se passe dans le Vieux-Montréal, tu sais, au bout du quai. L'eau, puis l'eau est brune, a de l'air sale, mais c'est parce que c'est très boueux. C'est vraiment juste parce que, tu sais, c'est le sol, c'est le fond qui fait que ça reflète. Elle est pas toujours propre, mais tu sais, en général, plus souvent qu'on pense, puis la qualité est bonne. Fait que là, je dis, Chris, man, puis j'étais à côté du canal Lachine, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de bassins, où ce qu'imagine si les enfants, puis les familles, un petit pique-nique, tu sais, ouais, mettre à bouée, laisse les enfants nager, qu'il y a des lifeguards, quoi. Il y a un bout qui appartient au fédéral, l'autre qui appartient à l'île de Montréal, l'autre c'est provincial. Tu fais comme tabarnak, on peut-tu arrêter le tout enculage de tout? Puis on peut-tu. Je suis dans une ville où que j'ai de l'eau d'en face, puis on peut-tu ramener. Il y a tellement d'endroits où j'ai vu des initiatives. Justement, viennent en Autriche, un exemple, où eux autres, sur 20 km, ont protégé leur eau. Tout ce que tu vois sur le bord, c'est des familles qui s'amusent, t'entends le rire, t'entends la joie. Tabarnak, on peut-tu créer de la joie? Tu rentres à Montréal, dès que tu traverses le pont, t'es en tabarnak. Ouais. 10 ans pour réparer un tunnel. Tu faut que tu... Non. Puis nous, ce que je trouve dommage, les Québécois, c'est qu'on accepte. Mais on a-tu le choix? Tu sais, je veux dire...
On accepte qu'ils nous disent que c'est impossible, ça se fait pas, pendant qu'ils détruisent la ville. Puis ils disent toujours, non, on ne détruit pas, on crée, Mais toutes les choses qui... Comme, t'as vu le nouveau « Welcome, bonjour » sign de Valérie Plante, ça coûtait combien, Poseidon?
500 000.
Combien?
500 000.
Arrête.
Ouais. Le cock ring, là, en plein Nouveau Montréal, là?
Non, pas le cock ring. Le bonjour, 500 000?
Parce que le cock ring aussi, ça a été 500 000.
Mais non.
Ça a été quelques millions, ça.
Mais le non, les millions, gars. Mais non.
Ouais. 495 000, which was non-repairable.
What the fuck? OK, là, ça, c'est si plus que... OK, le... ça, c'est dégueulasse.
Non, puis, m'a donné un autre exemple aussi que je trouve un peu décevant, c'est... Quand je suis allé aux États-Unis, en Arizona... J'applique ça au baseball, mais même j'avais été l'année passée en Finlande.
5 millions!
Pour un fucking cock ring! Sérieux, ta petite calice? Tu me fucking niaises, man!
Mais ça pèse 23 000 kilogrammes. Puis c'est en stainless steel, ça va pas rouiller au moins.
Oh my god, écoute, on n'a pas besoin de ça. Mais 5 millions, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire avec 5 millions de dollars?
Ça représente. l'architecte dit. Le mariage ou l'union du passé, du présent et du futur de la ville.
C'est un fucking cock ring, man.
Futur et la pauvreté.
Oui, c'est juste la pauvreté. C'est des sans-abri autour.
Ouais.
Sérieux.
Imagine les sans-abri autour qui sont comme 5 millions.
Ouais.
T'as gaspillé 5 millions.
Ouais, exact.
Tu sais que j'ai rien à manger.
Sérieux, l'architecte là, qui a fait ça, il s'est sécurisé une grosse paye. Là.
Oh,
quel
Max.
Architecte, c'est-tu? Quelqu'un, on voit un cercle, là, puis quelqu'un fait « Man, ça c'est brillant, pourquoi qu'on n'a pas pensé à ça? »
Quelqu'un a pensé à ça, les cavemen, ça fait...
Ouais. Ben, en fait, moi, pour moi, ça représente très bien Montréal puis le Québec en général. Ouais. T'sais, moi, j'ai jamais été très péquiste, parce que j'ai vécu à travers le pays, puis je trouve que le Canada, c'est un beau pays. Mais Chris... Je m'ennuie quasiment de l'époque de René Lévesque, puis tu sais, des militants qui voulaient brasser des idées, qui voulaient, tu sais, faire. Je peux-tu sentir qu'une vague de changement, Chris? Je peux-tu, tu sais?
Moi, je pense même pas que c'est ça le changement qu'on a besoin, parce que c'est même pas un changement du. Ah, c'est la province, parce que partout quand tu regardes, ça va mal. C'est pas juste. C'est parce que tous les gens qui sont élus maintenant, la majorité, sont incompétents. Ils pensent à eux-mêmes. Alors, ça change rien, même si on va dire on se sépare demain. Ça va aider à quoi? Ça va être les mêmes politiciens, mais maintenant, on n'a pas le Canada en plus. C'est juste eux tout seuls qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça va être la... On doit changer un peu les politiques. Ça doit devenir un peu plus un job que nous, on peut décider si quelqu'un ne fait pas un bon job, tu vois, avant de voter. T'sais. Peut-être on a des critères. Même si moi, j'ai voté pour toi, puis je veux que tu es là parce qu'on est amis, si tu n'as pas accompli certaines missions, tu dois démissionner. Des choses comme ça, tu sais.
Ouais.
Parce que sinon, c'est toujours la même. Ça, les 5 millions de dollars, qui a approuvé ça? C'est mes impôts, non? C'est tes impôts? Moi, j'aurais jamais approuvé ça.
Tu vois, ça aurait dû être un petit cas de référendum d'être pour ou contre un affaire de même. Tu sais, mais il y a une époque aussi... il y a une époque où, combien de fois, tu sais, nos parents un peu, mais surtout nos grands-parents... Les grands-mères, là, quand les grands-pères et les mononcles arrivaient, puis ils ouvraient le gin, puis je me suis dit, le règlement, c'était « on parle pas de politique, on va rester de bonne humeur », parce que les gens étaient passionnés par leur politique, ouais. Par leur parti, leur croyance, ils s'identifiaient beaucoup à ça. On sent calisse maintenant la politique. Puis, tu sais, avant ça, c'était un choix de carrière. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'aboutis en politique. If you fail,
c'est
d'autres échecs ailleurs, il te restera toujours la politique.
Au moins, tu peux voler l'argent du peuple.
Ben, puis, tu sais, je veux dire, regarde, on me parle pas de l'indépendance. Je veux dire, tabarnak, c'est comme... Le Québec veut être indépendant, c'est comme un petit cul de 10 ans qui menace à ce type de faire une fugue avec 5 piastres dans ses poches.
Mais maintenant, là, si on avait des bons politiciens, puis tu vois quelqu'un avec des idées, tu peux dire comme... Oh, peut-être, ouais, on peut se rendre indépendant, puis on peut faire des choses.
Ouvert à
mais
tout.
On a personne. Non. Moi aussi, je suis ouvert à des idées, mais on a personne, ça ne va rien changer. Même être au Canada, ça ne change rien. C'est...
Non, puis tu sais, tu parlais de Montréal-Toronto.
Moi, je Toronto, je dois dire la vérité, moi, je les niaise, mais fuck, ils ont construit une vraie ville avec d'opportunités. Ici, ah, ça, c'est comme si on enlève l'opportunité du monde.
Tu sais, t'as les Leafs, t'as les Raptors, ils n'ont pas assez proche d'avoir une équipe de la NFL.
Ça, c'est impressionnant.
Puis tu vas me dire, ouais, mais c'est du sport. C'est pas... Non, mais les gens sous-estiment l'attrait d'une ville par rapport au sport, ce que ça mène au point de vue de tourisme. Tu veux d'aller
toi, t'as le même point que Sébastien Bourgault. C'est ça qu'il disait, lui. Il disait, il n'y a pas de ville sans une équipe de baseball.
Mais c'est...
Ça, c'est un peu excessif. Mais
pas juste baseball, mais tu sais, je veux dire, on a le Canadien, mais OK, bon, les Alouettes, tu sais, puis l'impact, mais...
Et les Alouettes qui n'ont pas le CFL, on va dire
exactement,
la vérité.
Exactement, c'est
pas
une merde. Ouais. Mais c'est le fun, quand tu vois une game, je vais donner ça à la CFL. Surtout à Montréal, le stade McGill dehors, quand il fait beau, c'est le fun. Mais moi, enlève-moi le style fucking poteau sur la ligne début, puis... en tout cas, regarde, si on passe à la CFL, je n'ai pas 10 minutes, là, mais bon, c'est une autre affaire, mais comme tu dis... Tu sais, quand j'étais du cul, je me souviens, genre, Toronto avait 3 millions d'habitants, Montréal en avait 2. Ils sont rendus à 7 millions, on est à 4.
Ils sont presque le Québec en complet,
ouais. Ils nous ont tassé, man. Tu sais, je veux pas entendre des affaires, ouais, mais les immigrants veulent pas parler français, fait qu'ils vont à Toronto. Ça n'a aucun fucking rapport, la ville est attrayante,
t'estime. Tu sais où ça a commencé? Premier référendum. Même avant que ça... les grands business... Les gens qui parlaient, ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas que c'est. Il y avait beaucoup de militants dans le temps.
Ouais.
Alors, eux pensaient, OK, ils vont se séparer, ça va devenir violent. Ils commençaient à bouger leur business là-bas.
76, ouais.
Le monde oublie ça, mais Montréal, tu sais, ils disent que Toronto, c'est la vraie capitale du Canada, c'est économiquement et tout ça. Avant, c'était considéré. Montréal était considéré comme vraie capitale de Montréal, de Canada. Tout se passait ici, avec nos ports, et tout, c'était ici. Puis, à cause de tout ça, on n'était pas bien organisé, on a fait peur à les grandes entreprises. Ils ont allé là-bas, leur business, plein d'autres mondes ont allé là-bas, puis toutes les opportunités commençaient à aller vers Toronto, puis on ne s'est pas rendu compte. Puis maintenant, on voit la différence. On était en première place, puis ils nous ont fucking défoncés.
Écoute, mais c'est parce que c'est plus attrayant. Tu sais, je me souviens l'année passée au Festival Juste pour rire, il y avait plusieurs Français qui étaient débarqués, puis du monde que je connaissais, parce que, tu sais, pour avoir passé bien du temps là-bas, le cercle de chum s'est agrandi. Tout le même commentaire. Après deux jours, t'es année d'être ici parce que c'est juste fucking compliqué de se déplacer. C'est même pas accessible. Les changements que tu fais, premièrement, tu sais. Puis, regarde.
Mais le monde,
moi,
ils savent ça.
Moi, je suis dans la vie de Montréal, fait que j'ai trois ponts pas loin. Fait que, puis, s'il faut que je me sauve, je peux même prendre un radeau. Mais moi, j'ai des chums sur le plateau Mont-Royal l'hiver. L'été, je peux y aller en bike. C'est correct. L'hiver, ils me disaient, hey, on fait un brunch dimanche. Non, on va se voir au printemps. Parce que me stationner chez vous, fuck that, asti.
J'ai pas marché 28 blocs.
Non, j'ai d'autres choses à faire, asti. C'est fou comment de rester de bonne humeur est un défi. C'est ça que je trouve triste. Moi, là, ce que je trouve, c'est l'indifférence pour l'humanité de. Tu me fais pas croire, asti, qu'avec justement un tunnel bloqué pendant 10 ans, voyons, c'est une génération calisse.
Tu sais, c'est quoi? Ils font ça de petit à petit, puis le monde, il grandit dans ça, alors ils trouvent ça normal. C'est comme l'eau chaude, tu sais, pour les... c'est quoi? C'est les lobsters ou les grenouilles,
ouais.
Quand tu le bouilles un peu.
Parce, mort, ouais.
C'est ça, ben, c'est ça qu'ils font à nous. C'est parce que moi, j'avais
on
pas
est
rendu...
Des homards,
mais c'est ça, moi, je m'avais pas aperçu à quel niveau c'était atroce. Puis moi, je pensais que c'est pire à Toronto. Puis quand je suis allé regarder, j'étais comme, ah, fuck. Moi puis Mike, on se parlait, puis je dis, on doit avouer que c'est quand même Toronto, alors on va le niaiser. Mais
niaiser sur quoi? Il y a moins de choses, de moins en moins de choses à niaiser les gens sur Toronto.
C'est ça, on était dans les suburbs. Puis on avait Léo Labonté avec nous. Puis Léo est jamais parti de Sherbrooke. T'sais. Léo, pour lui, c'était tout nouveau. Il est allé à Moncton puis il pensait que c'était New York. Alors, on était dans une suburb. Puis il y avait des grands malls, des grands skyscrapers.
Non, mais c'est Saga, on a fait la même? Ou...
Même pas. Puis il y avait des skyscrapers, OK? Alors Léo était comme, ouais, c'est beau le centre-ville. Puis Mike, il dit... Ça, c'est le centre-ville. C'est de quoi tu parles? Puis tu, il pointe, il dit, ça, c'est le centre-ville de Toronto. Puis tu vois de loin, tu sais, ouais. Le pont, puis tu vois Toronto, puis t'es comme, oh, tabarnak, c'est quoi ça? Ça, c'est, juste une petite quartier.
J'ai le même réflexe à un moment donné parce que il y a peut-être une couple d'années, juste un peu avant la pandémie, je m'en allais rejoindre des chums dans le coin de Windsor. Puis, fait que je traverse Toronto. Puis à un moment donné, je suis comme, Chris, me semble que j'arrive dans le centre-ville de Bonheur. Tu fais, OK, non, non. C'est la première partie du centre-ville, c'est le opening act
ouais.
du centre-ville de Toronto.
C'était pas comme ça. Toronto était toujours, tu sais, il y avait des choses, mais c'était pas comme ça. Mais on voit, puis ouais. J'ai vu, ça c'est une autre chose que je m'aperçus, il y avait plein de choses nouveaux en construction. Des nouveaux immeubles, des condos, de tout, tout, comme ils se préparent pour que le monde ait quelques. Parce que, tu sais, le coût de vie est vraiment, vraiment élevé là-bas.
Ben oui.
Alors, eux, ils se préparent déjà. Ils, tu sais, beaucoup de condos pour qu'on puisse baisser le prix, tu sais, puis tout ça. Baisser le prix.
Ben, ils ont essayé de faire ça maintenant à Griffintown, mais ça n'a pas marché. Puis en plus, ce que j'ai remarqué, on a vraiment l'air de chier sur le Québec, mais garde.
Non, non, ça n'a rien à faire. C'est même pas chier sur le Québec, c'est plus voir les différences. On doit prendre les choses qui sont bonnes ailleurs.
Exact.
On doit les prendre comme. Des fois, la bureaucratie, ça n'aide pas. Tu dois le ralentir un peu parce que même ici, le loyer, ça commence à être trop élevé pour le monde. Alors, on doit créer plus de maisons, de condos, tout ça, pour que le prix commence à baisser un peu. Parce que sinon, dans 5 ans, si on continue comme ça, on va avoir la place. Puis, toutes les places qui vont être libres vont coûter trop cher. On ne fait pas assez d'argent ici au Québec. Alors, c'est pas bon, ça. T'sais, on doit faire quelque chose. Puis quand je voyais qu'eux, ils se préparent déjà, plein de nouveaux constructions. J'étais comme, OK, eux, au moins, ils sont comme, mais on va pas avoir la moitié de la population devenir des sans-abri. On doit faire la même chose ici. Mais ici, apparemment, c'est vraiment difficile pour les permis, pour tout ça, tu sais, pour...
Ouais. Non, puis c'est tout... Tu sais, moi, c'est... à côté de chez nous, c'est Griffintown, qui est le pire eyesore. C'est tellement laid à regarder, je veux dire. C'est le festival du daltonien, là. T'sais,
apparemment, tout le monde aime Griffintown. Moi, j'aime pas ça, mais...
Personne n'aime Griffintown. Peut-être les jeunes de 20 ans, parce que, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est un peu plus accessible que le Vieux-Montréal, mais c'est... en même temps, Chris, tu payes 600 000 pour un 1,5, puis t'entends ton voisin pisser, tu sais. Je veux dire, il y a quelques restaurants le fun. Le bord du canal, parce que moi, c'est là que je vais courir, c'est vraiment beau. Il y a quelques trucs qui sont quand même intéressants, mais la ville...
pas pour vivre.
Non, mais c'était supposé d'être... On va ramener les familles en ville, il va y avoir plein de parcs, d'arbres. Il n'y a pas un esti d'arbres, il n'y a absolument rien de vert. La moitié des trottoirs sont juste fucked up. Regarde la couleur des buildings. Je l'ai dit, là, c'est un festival de daltonien. Il y en a un qui est vert et beige, l'autre qui est brun et orange. Tu fais « What the fuck? » C'est quoi un hommage aux années 70, c'est-tu, puis fais-moi donc un building en forme de pantalon éléphant, puis on est correct, là, tu sais, fait que... Mais, c'est, encore une fois, comment ça a pu passer, cette affaire-là, tu sais, quand tu rentres en tant qu'étranger, la première chose que tu vois, c'est ça, vraiment, puis honnêtement, puis moi, tu sais, de chez nous, on a la terrasse au 6e étage, puis on voit vraiment, tu sais, j'ai quand même une belle vue de tout ce qui est Vieux-Montréal, puis il y a des édifices à bureaux à côté, c'est vide. Il n'y a plus personne qui revient travailler à Montréal depuis le télétravail. Un des bons côtés de la pandémie, c'est de réaliser, attends une minute, moi, je perdais 10 heures. Mettons, ça prenait 2 heures les retours. Je passais 20 heures de ma semaine dans le trafic.
Pas rien.
Être en tabarnak parce que le gars ou la fille est devant moi puis à côté, elle avance pas.
Ouais, ouais.
Man, s'il y a bien quelque chose au moins de positif dans tout ce qu'on vient de vivre, c'est OK, c'est quoi la qualité de vie, puis c'est quoi la qualité de vie que je veux avoir. T'sais.
Comme Adib, par exemple, lui, il habite loin
ouais.
parce qu'il n'a pas besoin. Lui, il a de la paix. C'est ça qu'il m'avait décrit l'autre fois. Il dit j'ai ma maison, je suis loin, oui, mais c'est bon, j'ai des voisins, c'est fun. Puis quand j'ai besoin de faire du stand-up ou faire un podcast, je rentre en ville. Lui il a vraiment trouvé le.
Écoute, moi, je suis rendu à penser que. T'sais, moi, j'ai une maison dans Charlevoix, comme je te dis, c'est genre, j'ai envie de louer mon condo dans le centre-ville, aller vivre en campagne, puis justement, tu sais, faire genre une semaine à Montréal pour faire les comedy clubs, les tournages de podcasts, les meetings. De toute façon, les meetings, tu peux les faire partout.
Ouais, moi, j'aime les meetings en personne, j'aime pas les meetings en Zoom.
C'est sûr, puis ça, s'il y a quelque chose qui s'est perdu, puis moi aussi, je promets. Quand le monde me. Je peux comprendre, il y a un an puis deux ans, mais quand le monde me dit on fait ça en présentiel, vraiment, on peut-tu. Dis-moi pas en présentiel. On peut-tu voir la face? On peut-tu faire ça en personne? Dis-moi pas fucking présentiel. Moi, je déteste cette expression.
Moi, je dis face à face, en personne.
Exact!
Live!
Mais oui, mais tout ça pour dire que, regarde, oui, la qualité de vie, man. Même mon chien, si je vois la différence entre quand t'es en ville et quand t'es en campagne. Ben, c'est normal, tu vas me dire, là, mais.
Chien,
ouais. Ouais, mais même l'humain, si tu sais, je veux dire, la tranquillité, le silence, tu sais, je veux dire. Fait que tout le monde est allé chercher cette balance-là de l'équilibre.
T'aimes pas ça, la criminalité? Il est...
Sur une petite échelle. deux, trois jours par mois de criminalité, de Gotham City, comme tu dis.
Ah, oh, c'est Gotham City.
Je l'avais pas vu de même, mais c'est vrai qu'on est rendu à Gotham City.
Ah,
oh,
c'est Gotham City en full. J'ai un humoriste de Georgia Silly, il vient d'Ottawa, il vient de déménager ici, puis il fait l'humour en anglais.
Ouais.
Puis lui, il peut pas. Il dit à chaque jour, je pense que je suis dans GTA. Il dit, est-ce que vous voyez comment c'est ridicule votre ville? Puis il me donne plein d'exemples, puis je suis comme, tabarnak, il a raison, c'est Gotham City. Et comme, qu'est-ce qui se passe avec votre... Tu sais, les danseuses sont bien respectées, mais les lois ne sont pas... tout est brisé. Tout le monde vole d'argent, puis vous êtes cool avec ça. Il y a des criminels. Les criminels ont des pages Facebook. C'est GTA. C'est pas une vraie ville.
Ouais. Oh mon Dieu, c'est fucking...
c'est drôle. On doit rire un peu.
Ben, le monde mais en même temps, c'est ça le problème. Parce qu'on rit, puis on est tellement habitué. C'est comme... À ce force... de se faire frapper sur la tête, on est étourdi et on ne sort pas du coma.
Mais je vais te dire, qu'est-ce que le monde va te dire? Qu'est-ce que je peux faire? On va dire, maintenant, le monde, ils sont au courant de ça. Okay? On va dire Valérie Plante. Okay? On veut la changer. Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sort maintenant avec une bonne plateforme, quelqu'un qui va voter pour lui. La majorité des gens vont pas voter parce qu'on fuck ça.
Ouais.
C'est, on n'a pas...
Surtout municipal.
Parce qu'on peut pas. Par exemple, moi, je veux changer des choses. Puis moi, je travaille très, très fort. Alors, si je travaillais dans ça, j'aurais mis toute ma vie pour la ville, puis j'aurais changé quelque chose. Mais j'ai pas le temps. Puis je veux pas rentrer dans les politiques. T'sais, alors, l'autre personne, peut-être il y a plein de gens qui sont vraiment... ils peuvent vraiment changer quelque chose, mais ils veulent pas rentrer dans ça pour plein de raisons, comme moi. Tu vois? Alors, c'est pas quelque chose de charmant que tu veux faire. Tu regardes, puis c'est comme, c'est dégueulasse, le gouvernement. Je veux pas rentrer
mais
dans
moi,
ça.
On m'a approché quelques fois pour... dans le temps du Parti vert... les premières années du Parti vert, on voulait que je sois député même dans Outremont. Dernière campagne municipale, il y a un gars que je connaissais qui travaillait anciennement pour Coderre, qui a parti son propre parti, qui dit « J'aimerais ça que tu embarques avec moi. Je pense qu'on peut faire bouger les choses. » Et c'était tentant. Mais à chaque fois que je me fais toujours dire la même chose. C'est plus facile de faire avancer, bouger les choses en société, en dehors de la politique, qu'à l'interne.
Tu vois?
Parce que j'imagine que la fuite. Tu sais, oui, on n'aurait pas dit que c'est des incompétences. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'incompétences, mais je pense que même tristement, c'est quand il y a des bonnes volontés. Tu te butes à tellement de, comme tu dis, de bureaucratie, justement, d'incompétences autour de toi que tu deviens finalement. Je suis sûr que quelqu'un rentre là. Puis, en fait, quelqu'un m'avait raconté une anecdote. On parlait du Parti québécois là, tantôt. Quelqu'un m'avait raconté qu'un souper. Toute la gang était là. Lévesque, Parizeau. Landry, Claude Char. C'était la fin de leur premier mandat. On a fait le même. Puis il était un souper entre eux autres. Puis quelqu'un avait dit, Calis, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré ici avec tellement de bonnes intentions. Comment ça fait qu'on n'a pas réussi à faire ça? T'sais, c'est une vieille machine mal huilée qui rouille. Fait que de petit, t'as beau mettre l'épaule à la roue, Chris avance lentement. Tu sais, je pense que c'est ça qui est décourageant, puis ça ne va pas de mieux en mieux, parce que justement, tu sais, moi j'en connais... Le dernier... Pascal Bérubé du Parti québécois est un chum. Puis c'était un chum avant de devenir député. D'ailleurs, l'année qu'on s'est rencontrés, c'était dans son patelin à Matane, après un show. Trois mois plus tard, il commençait sa carrière. Puis c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui voulait vraiment faire ça. Qui voulait être un politicien de carrière. Parce que même, tu vois, j'ai souvent dit, pourquoi tu viens juste pas chef du Parti québécois? C'est ça que tout le monde veut, c'est ça que tout le monde te demande. Et c'est parce que quand t'es un chef, à un moment donné, on te tasse. C'est comme un coach de hockey. Il dit, moi, j'ai le goût d'être un politicien jusqu'à ma retraite. C'est ce que j'aime faire dans la vie.
Je veux pas travailler un vrai job.
Exactement. Mais j'ai
pas entendu
ça
contribuer.
Souvent, tu sais. Non, mais tu comprends, au moins. Et là, j'ai fait, OK, malgré tout ce qu'on pense, il y en a une couple de vraiment sincères là-dedans.
Mais ça change rien. Parce que t'as besoin de plus.
De toute façon, la prochaine étape avec tout ce qui se passe, avec les changements
climatiques...
C'est la révolution! Man, moi, la prochaine passe de cash, moi, je commence à construire le bunker dans Charlevoix.
Si c'est encore.
Je vais commencer à construire la serre pour être autosuffisant. Il y a pas mal de chevreuils auto, fait que après ça, tout ce que ça me prend, c'est les M16 pour la guerre contre les zombies, puis il y a mon gars de style, tu sais.
OK, ben écoute, Max, honnêtement,
sur
j'ai...
cette image.
Sur cette image, moi, j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Je pense que c'est cool. Le monde peut te catcher. Toi, tu as ton propre podcast, mais je dois vraiment dire au monde qu'il doit venir te voir live, puis ils vont voir la chance juste deux fois cet été avec les Rebelles. Mais toi, tu fais-tu ton solo pendant l'été ou non?
Je suis en fin de tournée. J'ai quelques petites dates, mais
alors, c'est vraiment les Rebelles?
C'est vraiment les Rebelles.
Saint-Eustache et Brossard.
J'en ai un peu mais là, on commence, à partir de septembre, on commence l'écriture. Je retourne en Europe 6 semaines, mais à partir de novembre, je reviens au Québec pour roder. Puis,
Ben, tous tes liens sont déjà dans la description. On peut cliquer là-bas si, si tu ne suis pas déjà. Tu as des podcasts, tu as le stand-up. Puis maintenant, on va terminer ça, puis je vais te parler de mon idée. Merci, Max! To the thoughts of my head, all my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read. Oh my god. No remedy, no alibi. It's only me, myself, and I. Memories I catch as time's gone by. We've built this prison cell.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.